à éviter les averses en se réfugiant dans un très bon restaurant. Donc, c'était très bien.
Oui, c'était impossible.
J'y suis passé vite fait, mais je ne connais pas.
Monsieur Campagnac, vous allez-vous? Ça
me
fait plaisir de vous voir.
Moi aussi, oui, dans d'autres lieux.
Il paraît que vous avez disparu.
Oui, parce que j'étais un peu à la saturation. La saturation des boîtes de fonctionnement.
Oui, j'ai bien compris. J'ai bien cru comprendre. Ça suffisait.
Oui, oui. Je crois que si on continue comme ça, je ne sais pas comment ça va se passer. On va compter les boulots. Voilà.
Oui, ah oui, c'est vrai. Vous connaissez. Une année.
C'est vrai, une année.
Ouais. Ah ouais. Si ça va bien, je fais un peu plus, mais oui. Vous, vous avez fait bien votre temps.
Oui, puis j'ai d'autres.
Puis vous avez plein de choses à faire.
Bonjour.
Bien, je vous propose que nous commencions sans trop sans trop tarder, qu'on ait le temps un peu d'échanger entre nous par rapport au sujet qui va nous préoccuper. Maintenant, on a parlé de déficience visuelle dans l'intervention précédente. Maintenant, on va parler de l'enfant sourd, en particulier les troubles vestibulaires chez ces enfants sourds et en quoi elles vont répercuter sur son développement. Et donc, je vais passer la parole à Catherine Ballet, qui est psychomotricienne au CAMS de déficient visuel, déficient auditif, pardon, déficient auditif de Villeurbanne. Je vous passe la parole.
Merci. Sur le sujet. Bonjour, c'est Balaï.
Balaï, excusez-moi.
Voilà, je Balaï. Suis psychomotricienne et donc je voulais vous faire partager mon expérience vraiment de praticienne auprès de ces très très jeunes enfants qui présentent cette double déficience audio-vestibulaire. C'est vrai que le vestibule et l'audition, c'est souvent un lien sous-estimé et pourtant c'est extrêmement lié. Ces enfants sont vraiment vont devoir se construire avec cette double déficience sensorielle et très très tôt, très précocement, les enfants vont développer des troubles associés qui seront très repérables dans le développement psychomoteur. Juste quelques rappels pour ceux qui ne connaissent pas trop le vestibule, c'est le plus petit organe du corps qui est situé dans l'oreille interne et qui est situé dans le même contenant osseux que la cochlée, et c'est un même système sensoriel qui fonctionne avec des cellules, des liquides. Et que ce système a des différents capteurs qui permet au cerveau de savoir à tout moment où se trouve la tête dans l'espace et où sont les mouvements de la tête aussi dans l'espace. Et ça permet de répondre à ces trois questions. Comment suis-je dans l'espace? Où suis-je? Et où vais-je? Ce système produit trois réflexes compensateurs. Le réflexe vestibulo-oculaire qui permet de stabiliser les marches sur la rétine. Le réflexe vestibulo-spinal qui permet de maintenir la position érigée quand on est debout et à piloter l'équilibre quand on marche. Et le réflexe vestibulo-vagal qui permet d'adapter les fonctions végétatives au moindre changement de position. Alors, la fréquence des associations est vraiment importante dans une population d'enfants sourds profonds. 40% des enfants vont présenter des déficits vestibulaires symétriques, asymétriques, et 20% vont présenter ce qu'on appelle des aréflexies vestibulaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune réponse vestibulaire sur leurs deux vestibules. Donc, c'est vraiment l'absence complète d'un sens. D'une façon générale, on retrouve des étiologies de façon dans les grands syndromes plurimalformatifs ou non, et puis dans les causes infectieuses, c'est surtout dans le syndrome de charge où l'atteinte est vraiment caractéristique, mais on le trouve aussi dans le syndrome Duchère de type 1. Et puis, lorsqu'à l'imagerie, il y a une dilatation de l'aqueduc du vestibule, ce sont vraiment des facteurs prédictifs de troubles vestibulaires. Et puis, toutes les maladies infectieuses comme le CMV, le cytomégalovirus et les méningites. Et puis maintenant, il est... donc, les autres syndromes, je vais les passer. Maintenant, il est actuellement admis que la pose d'un implant cochléaire peut affecter la fonction vestibulaire et provoquer 10% d'aréflexie vestibulaire. Donc on est obligé de prendre en compte cet aspect-là dans les implantations. Alors c'est vrai que les explorations vestibulaires sont extrêmement récentes depuis les bilans pré-implants et que du coup on a pu objectiver à l'IRM scanner soit ces malformations, et on a pu aussi déterminer les répercussions non seulement sur le développement psychomoteur, mais aussi sur le développement des fonctions cognitives. Les problèmes de l'équilibre ont toujours été repérés avec la surdité, mais ils ont été très longtemps ignorés. Alors voilà, l'exploration du vestibule se fait en milieu hospitalier. C'est toute une série d'examens. Voilà le petit type de support qu'on propose aux enfants pour les préparer à ce type d'examen. Je passe rapidement. Surtout important, ce sens du vestibule, c'est réellement un sens. Finalement, c'est un sixième sens qu'il faut rajouter. Le professeur Berthoz nous le dit bien. Et c'est le sens le plus primitif et le plus universel. Finalement, c'est celui qui a permis d'échapper à nos prédateurs. Et on finit par l'oublier. Mais il est vraiment là, dans l'oreille interne. Et c'est un réel pivot pour tout ce qui est l'organisation de ce schéma corporel, de cette prise de conscience, de cette acquisition d'un référentiel corporel orienté. C'est cette perception interne de la verticale. Et c'est aussi un réel pivot dans l'organisation spatiale avec les constructions des espaces égocentrés, c'est-à-dire des relations de soi avec l'environnement, ou l'espace allocentré, qui est la relation des éléments entre eux. Et tout ça, ça fait appel à des traitements cognitifs de rotation spatiale, de navigation spatiale, et actuellement sont à l'honneur pour le dernier prix Nobel de médecine et de physiologie. Le couple Moser et puis John O'Keefe qui ont travaillé sur le système de géolocalisation spatiale dans le cerveau et ça fait intervenir les capteurs vestibulaires. Alors, pourquoi l'enfant sourd est doublement pénalisé ? Parce que les compensations spontanées de l'enfant reposent en grande partie sur l'intégralité des fonctions vestibulaires. Donc l'enfant vraiment présente un double handicap. L'enfant va devoir donc trouver des repères différents pour construire non seulement son équilibre, pour stabiliser sa vision, son regard, pour stabiliser sa posture, mais aussi pour construire toutes ces fonctions cognitives qui sont associées à ce sens vestibulaire. Je vous ai juste préparé une petite séquence pour vous essayer de vous faire visualiser ce que c'est que ce réflexe vestibulo-oculaire et qu'est-ce que ça produit quand il n'existe pas. Alors, c'est en anglais. Je vais avancer un petit peu.
Hyper kid, when they see. And most people have no idea to its own job.
J'attendais, j'avance un petit peu.
Or hanging upside down from playground equipment. Or going on iPod, our voilà. Vestibular system is also supposed
l'enfant
to keep our eyes still.
L'enfant stabilise pas l'image quand ça
so
bouge.
Images aren't bouncing all over the place.
Quand il se déplace, tout bouge. Et quand il est dans une tâche scolaire, toutes les lettres bougent. Donc on peut imaginer toutes les répercussions, non seulement sur l'installation des relations précoces, lorsque l'enfant regarde les lèvres bouger de sa maman, ou lorsqu'il est après en situation scolaire. Ou pour construire toute cette prise de référence spatiale, quand tout bouge, tout est mouvant, c'est très compliqué. Voilà, donc on entend encore trop, mais l'enfant compense. Alors, on a tort de penser qu'une compensation spontanée du système vestibulaire va être d'emblée efficiente. Au contraire, on va constater de nombreux retards et de lacunes dans tout ce qui est la représentation de soi, la représentation de l'espace, la représentation du temps, et avec des effets sur les praxis et l'automatisation du geste. Quelques rappels, ça me semblait important. C'est vrai que dans l'autogénèse, il y a une précocité du développement prénatal du système vestibulaire. Déjà à 6 semaines de gestation, la forme du vestibule est déjà complète. Et à 6 mois, le vestibule a la taille adulte. Et quand l'enfant naît, il est fonctionnel comme celui de l'adulte. Il n'est pas encore intégré dans le système nerveux central, mais tout est fonctionnel. Et l'enfant in utero a déjà cette expérience du mouvement. Il a déjà l'habitude de bouger. Et quand il naît, on peut s'appuyer sur ses compétences. Et on sait bien que l'enfant, au cours des 3 premières années, va développer toute une série de comportements d'auto-stimulation vestibulaire qu'on connaît bien, comme les mouvements de succion, les mouvements de pédalage des mains, de pédalage des pieds. Quand l'enfant est en position lapin, il se met à bouger comme ça. Puis quand il est debout avec un appui, il fait des translations au bas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de calibrer en fait son œil avec le déplacement de la tête. Et tout ça, ce sont des activités qui sont essentielles dans l'organisation multisensorielle et qu'il faut vraiment encourager auprès de tous ces enfants. Alors, encore un petit rappel, il faut 3 sources d'information pour pouvoir tenir son équilibre, sa vision, son vestibule et sa proprioception. Sa proprioception, ce sont tous ces capteurs de pression tactile qui sont sous la voûte plantaire. Et puis la somesthésie avec toute la sensation des muscles, des tendons, des articulations qui nous permettent de nous situer dans l'espace. Et un rappel, dans une population d'enfants tout venant, l'âge moyen d'acquisition de la marche est de 13 mois, donc c'est très tôt, avec plus ou moins 5 mois. Mais en tout cas, au-delà de 18 mois, on se pose la question d'un retard. Et au cours de ces deux premières années, il faut encore se poser la question de la plasticité cérébrale, parce qu'au-delà de ces deux ans, l'acquisition va se faire beaucoup plus difficilement et sera beaucoup moins automatisée. Donc ces enfants qui n'ont pas de réponse vestibulaire vont développer extrêmement tôt une hypotonie majeure et un retard du développement posturomoteur et locomoteur. Et ces signes, malheureusement, sont encore trop souvent interprétés à tort pour des signes d'atteinte neurologique. Et on voit encore beaucoup d'enfants qui passent par la psychiatrie ou dans des errances de diagnostic, et c'est vraiment important de les connaître. Donc il faut imaginer que ces jeunes enfants n'ont pas de détection spontanée des mouvements. Donc, très tôt, ils développent cette grande hypotonie axiale. Ce sont des bébés poupées de chiffon qui ne tiennent pas le regard, qui sont très impressionnants et qui ne supportent pas le mouvement. Dès qu'on les bouge, dès qu'on les balance, ils ne supportent pas le mouvement. Tant qu'ils sont petits, ils n'ont pas cette capacité d'anticiper ces mouvements de bercement, de balancement, de retournement, de changement de position, de rotation. Donc ça fait des bébés qui ne sont bien que lorsqu'ils sont couchés sur le dos, lorsqu'ils sont plaqués, lorsqu'ils ont des appuis arrière, tête, nuque, dos, bassin et pieds. Donc on imagine bien les répercussions dans les relations précoces lorsque un parent vient chercher son bébé et que le bébé hurle dès qu'on essaye de le prendre, de le bercer. Voilà, ça met en doute toutes les compétences parentales. Et dès qu'on le déplace en mouvement, il pleure, il se fige, il a le regard qui s'absente, il coupe pour pouvoir supporter le défilement visuel. Donc ce sont des enfants qui ne vont pas passer par les étapes du développement psychomoteur, ils ne supportent pas la position ventrale, ils vont avoir du mal à redresser leur tête. Pourquoi ? Parce qu'ils ne perçoivent pas ils ne perçoivent pas la pesanteur, la gravitation. Donc pourquoi relever sa tête quand on ne sent pas du poids sur soi ? Donc ils vont avoir du mal à se redresser, se repousser, se redresser vers les étapes de la verticalisation. Et le passage à la position assise, puis la position debout, va être particulièrement inconfortable et laborieuse. Il va falloir les aider. Donc ce sont des enfants qui recherchent spontanément des appuis. Ce sont des appuis qui sont souvent très étonnants. Ils vont utiliser leur tête pour libérer leurs mains. Ils se mettent dans des situations qui sont très atypiques et qui font penser à des comportements, on va dire, psychiatriques. Voilà. Et lorsque l'enfant est debout, l'acquisition de la marche va être très très compliquée parce que ces enfants sont obligés de lutter contre le déséquilibre à chaque pas. Comme ils ne perçoivent pas ces rotations rapides de la tête et du corps, ils n'ont pas le temps de mettre leurs mains en avant pour se récupérer et ils font des chutes sans anticipation qui sont très impressionnantes. Donc ce sont des enfants qui tombent comme des quilles sans qu'on puisse les récupérer et qui ont des bosses en permanence, toujours au même endroit. D'ailleurs, pendant les trois premières années, vous avez la bosse en permanence qui est là. Je suis un peu émue, ça va aller. Voilà, donc ce sont des enfants qui cherchent ces appuis. Un autre signe caractéristique, c'est que lorsqu'ils sont plus petits, qu'ils sont en position assise, ils ne vont jamais se mettre en situation de déséquilibre. Donc le signe clinique d'alerte, ce sont ces enfants qui ne vont pas chercher un objet qui est à plus de longueur de bras parce qu'ils ne se penchent pas en avant. Donc du coup, ils ne développent pas les réflexes d'équilibration avant, latéral, arrière, et ils se décalent comme ça. Voilà. Une fois qu'ils ont compensé, qu'ils sont plus grands, les signes sont beaucoup moins visibles. Mais le déficit vestibulaire est toujours là, toujours présent. Et donc, on peut repérer plus tardivement ces signes. Par exemple, ces enfants qui vont se plaindre de vertiges, de sensations vertigineuses, ces enfants qui vont se plaindre de douleurs abdominales ou de nausées ou de vomissements. Et puis, c'est souvent les professeurs d'EPS qui repèrent les difficultés lorsque l'enfant est en situation d'extérieur où il faut bouger. Aussi, au niveau aquatique, quand l'enfant est dans l'eau, tout bouge autour de lui, tout est mouvant, il n'a aucun repère stable, donc ce sont des situations qui sont très difficiles pour lui, surtout s'il n'a pas ses appareils. On enlève plusieurs sens. Et Les signes aussi qu'il faut retenir, c'est que ces enfants, malgré un examen ophtalmologique normal, présentent cette instabilité du regard. Et du coup, ça va provoquer en effet cascade une difficulté d'acuité visuelle. Et ce sont des enfants qui, en tâche de lecture, sont extrêmement gênés. On a pu le voir tout à l'heure avec la petite séquence. Dans les groupes d'enfants aussi, ça c'est des signes typiques, ce sont des enfants qui vont s'économiser, ils vont se mettre en retrait. Vous voyez, c'est tellement dur de se déplacer dans l'espace, ça leur demande tellement d'énergie, puisque cet équilibre, ils sont obligés de le contrôler en permanence, ça ne passe pas sous contrôle automatique. Du coup, vous voyez, ils se crochettent sur sa chaise, ils cherchent les appuis et ils préfèrent ne pas rejoindre le groupe. Ça, c'est très typique. Ces enfants recherchent en permanence des appuis pour se stabiliser. On voit sur l'enfant en situation de classe, vous voyez, il va poser son menton pour stabiliser son regard. Ce sont des formes d'appui qui sont très repérées chez ces enfants. Si on ne le connaît pas, il faut mettre des adaptations, il faut leur donner des appuis avant, enfin, il faut bricoler des choses, quoi. Regardez cet enfant. Regardez l'énergie qu'il met à essayer de se stabiliser sur sa chaise pour regarder son enseignant. Il accroche ses pieds, il accroche ses mains, il crochette. Et vous voyez bien que dans ces situations-là, l'enfant ne peut pas être disponible pour les apprentissages. Ça lui demande beaucoup d'énergie, il faut lui mettre des adaptations. Le signe caractéristique aussi, c'est cette grande fatigabilité. Ces enfants qui ont besoin de retourner au sol, c'est le repère, le sol. Quand ils étaient bébés, ils étaient... Une maman disait « je suis le roi » quand il était couché dans son berceau. Donc, ils ont besoin de petites pauses, pas de grandes pauses, mais de petites pauses. Ils ont besoin de se recentrer sur eux. L'effort qu'ils font pour contrôler leur vision est tellement énorme qu'ils coupent. Donc, ça donne des regards très atypiques. Ces enfants qui coupent le regard, ces enfants qui prennent très lentement l'information. On dirait des fois des astronautes, ils sont comme ça, ils tournent tout doucement parce qu'ils ralentissent l'image sur la rétine. Ce sont des enfants qui peuvent avoir une expression très figée parce que pour tenir l'équilibre, on se met en situation de contraction. Enfin, des regards très atypiques avec ce regard et ces saccades. Finalement, quel est le lien avec le langage? Il est très important. Pas simple à comprendre, mais finalement c'est quand même assez simple. On comprend bien que l'instabilité du regard lors des mouvements rapides de la tête et du corps ne va pas permettre à l'enfant de capter des informations venant de sources différentes. Par exemple, dans les situations d'attention conjointe, quand il faut passer sa tête de l'interlocuteur à l'objet qui est montré, dans les situations de pointage, ça c'est quelque chose de très difficile parce que l'enfant emmène tout le champ visuel avec lui, donc du coup il se fige. Il est difficile pour l'enfant aussi de maintenir son attention visuelle sur des enchaînements de mouvements, soit des enchaînements de mouvements buccofonatoires, quand on parle on fait bouger les lèvres, donc ça bouge, l'enfant il a du mal à fixer son regard, soit des enchaînements de mouvements de langue des signes, c'est pareil, c'est une perception d'éléments séquentiels, et là aussi l'enfant est en difficulté. Du coup, sa durée de fixation va être très réduite et il va avoir il n'a pas la possibilité de s'entraîner dans la durée à la compréhension du langage oral. Et puis, toute cette mauvaise perception des verticales et des orientations du corps va sérieusement compliquer toute l'analyse topologique quand l'enfant est en situation où il est face à son interlocuteur et il faut faire les inversions droite-gauche, avant-arrière. Alors, le bilan psychomoteur est intéressant. Chez les tout-petits, il y a une échelle qui est vraiment intéressante pour sa valeur prédictive, qui est l'échelle de Vèvre-Douvray et qui permet de suivre l'évolution du tonus et l'évolution des acquisitions du développement posturomoteur et locomoteur. C'est une échelle qui va de 0 à 48 mois. Et elle est très intéressante parce qu'elle détermine deux profils. Le premier profil, ce sont des enfants qui ont des atteintes de l'utricule et du sacule. C'est-à-dire, ce sont tous ces gravicepteurs de la perception de la gravitation. Donc, ces enfants-là ne perçoivent pas toutes les accélérations linéaires, avant, arrière, sur le côté, toutes les translations, comme sur le petit dessin. Et ces enfants-là vont, la courbe rouge, vous voyez, ils vont se décaler dans toutes les acquisitions du développement posturomoteur, on va dire du maintien de la tête jusqu'à sauter à pieds joints vers l'âge de 4 ans. Donc vous voyez, ce sont des enfants vraiment qui vont se décaler. Ce n'est pas un retard psychomoteur, c'est un retard posturomoteur et locomoteur. Et on va déterminer un autre profil d'enfants. Ce sont ces enfants qui vont avoir des déficits sur les canaux semi-circulaires. Par exemple, dans le syndrome de charge, où le canal semi-circulaire externe est une atteinte caractéristique, ce sont ces enfants qui ne perçoivent pas la rotation rapide de la tête. Ce sont des capteurs qui captent toutes les accélérations angulaires. Et donc, vous voyez, tous les mouvements de oui, non, peut-être, ne sont pas perçus. Et ces enfants-là vont avoir un développement différent. Ils vont suivre les étapes du développement classique jusqu'à la position debout. Parce que de la position allongée pour les étapes de verticalisation, pardon, on utilise la pesanteur, cette gravitation. On en parle beaucoup maintenant de la pesanteur. C'est ce qui permet de se repousser. Une fois qu'ils sont repoussés et qu'ils vont se lancer dans la marche, ils vont recruter ce qu'on appelle ces canaux semi-circulaires. Et s'ils ont une atteinte de ces canaux semi-circulaires, ils ne vont pas contrôler le déséquilibre et ils vont tomber. Donc ces enfants-là, vous voyez, au moment de se lâcher, ils ne se lâchent pas. Et ils vont se décaler très très longtemps dans le temps. Autre caractéristique, les enfants qui présentent dans cette échelle de développement, il y a une échelle de préhension-coordination qui est assez intéressante. Ces enfants mettent en place des stratégies. Ils utilisent leur ventre, où on a des gravicepteurs de la gravitation, donc ils prennent appui sur le ventre, ils utilisent leur tête pour prendre appui, ils libèrent leurs mains, et du coup, ils développent leur motricité fine. Donc souvent, on a des enfants qui ont des compétences plus élevées de leur âge pour tout ce qui est motricité fine. Par contre, arrivent des difficultés lorsqu'ils sont plus grands dans toutes les activités de construction visuo-manuelle, les découpages, les pulses, les constructions, parce qu'ils n'ont pas construit tous ces référentiels par rapport au corps. Alors évidemment, l'objectif, ce n'est pas de réduire l'enfant à une courbe, mais ça permet quand même de suivre l'évolution de son développement et ça donne des indices intéressants. Donc ces enfants-là, au cours de la toute petite enfance, si on veut augmenter leur interaction et leurs apprentissages, il faut absolument les stabiliser. Les stabiliser, c'est-à-dire leur donner des appuis de tête, des appuis nuque, des appuis bassin, des appuis dos. Il faut leur présenter, il faut leur apprendre à utiliser des repères visuels. Il faut leur apprendre l'anticipation visuelle, c'est-à-dire d'avant de tourner la tête, il faut qu'ils regardent un objet avant de tourner la tête pour éviter d'emmener tout le champ visuel avec eux. Donc ça, c'est tout un travail qu'il faut leur apprendre. Il faut toujours les stabiliser, toujours être très proche de leur regard, leur présenter des jeux qui sont un peu gros mais pas petits. Il faut ralentir ces mouvements, ralentir les mouvements de la langue des signes, parce que sinon, ils coupent le regard, ils ne peuvent pas suivre. Donc c'est plein de petites choses à travailler très précocement avec tous ces enfants. Alors si tout ça c'était simple, ce n'était qu'une histoire d'équilibre, mais en fait le sens vestibulaire fait appel à toute cette compétence de prise de référence et d'orientation spatiale. Et donc on va avoir toute une série de répercussions cascades sur les apprentissages scolaires et puis évidemment sur le développement psycho-affectif avec ces grands vécus de mésestime de soi, de fatigue, d'échecs successifs qui sont vraiment à prendre en compte. Je vous donne rapidement une tâche d'écriture quotidienne. Vous voyez que le vestibule participe à maintenir le cou stable et la nuque stable. Vous voyez que le vestibule participe à faire bouger les yeux sur la ligne de droite à gauche ou à fixer les lettres et puis aussi à inhiber les autres sens. Donc on voit déjà les difficultés. Au niveau du dessin, regardez cet enfant, c'est un enfant sourd, on voit l'investissement des oreilles, l'investissement des yeux, on a l'impression qu'il y a 360 degrés de champ visuel, voilà, comme le champ auditif. Regardez ces enfants sourds vestibulaires, regardez l'importance du pied, on voit ce pied qui sert vraiment à maîtriser l'équilibre. Et puis regardez, ils sont penchés, ces enfants-là se sont construits complètement penchés. Un autre exemple, une petite fille de 3 ans, 6 mois, là aussi, elle a dessiné sa famille toute penchée, mais parce qu'elle la voit penchée, parce qu'elle s'est construite penchée dans l'espace. Sur le dessin de cette petite fille de 8 ans, on sent cette rigidité d'attitude. Très tôt, les enfants vont adopter une attitude de rigidification de l'attitude pour maintenir l'équilibre, c'est-à-dire qu'ils passent de cette hypotonie que je vous ai décrite quand ils sont tout petits, à cette rigidité d'attitude pour se tenir, où ils verrouillent tête, nuque, tronc, bassin, jambes, et ils agissent en bloc, ils agissent comme des bâtons, sinon ils tombent, hein, et ça leur demande beaucoup d'énergie. Et on voit bien chez cette petite fille comment son attitude est rigidifiée, on voit qu'elle ne représente aucune articulation, et du coup il y a une grande immaturité. Il y a une grande immaturité au niveau de la représentation du schéma corporel. Et puis, ce sont des enfants qui restent toujours avec un double appui. Donc, jamais ils explorent les translations droite-gauche. Et pour l'indifférenciation tonique et pour la latéralité, ça pose aussi des problèmes. Alors, on va passer un peu vite. Ça, c'est intéressant parce que vous voyez, c'est une tâche de reproduction d'orientation de cube. Regardez où va se positionner la petite fille. Elle va se mettre à l'autre bout de la pièce. Les cubes ne sont pas du tout orientés comme on les voit. Et pour elle, elle est satisfaite. Elle les voit comme ça. Elle ne prend pas en compte, dans l'analyse visuelle des cubes, la dimension de la gravitation, de la pesanteur. Donc, elle construit le monde autrement. Alors, c'est vrai que les tableaux sont souvent complexes et que les déficits vestibulaires peuvent... associé à d'autres dysfonctionnements. Voilà, on va passer un peu vite. Et je vais vous présenter un petit film pour vous montrer ces signes cliniques. C'est un film qu'on a réalisé avec ma collègue orthophoniste. Et on remercie surtout la participation des familles et des enfants, et puis aussi le fait qu'ils nous autorisent à diffuser ce film. C'est pour se dire au revoir. Hein? Oui, c'est pour se dire au revoir.
Te voir la tête dans l'espace. Oh, parti en arrière. Parti. Voilà, repousse. Oh, ça fatigue.
Ah oh oui, c'est fatigant.
Fatigue. Oh, c'est fatigant. Oh. Qu'est-ce que tu... La fibre. T'entends bien. Voilà. Encore. Et puis vous pouvez faire en avant aussi. Alors, on redresse la tête. En avant. En avant. Là. C'est bien. Tout en haut. Tout en haut, tout en haut. Voilà, la laissez pas partir.
Regarde.
La
barrière, maman.
Allez, vas-y.
Tu viens?
Viens, vas-y là-bas.
Tu viens aller chercher?
Ouais. C'est bien. Bah dis donc, t'as fait des progrès.
Ouais, Marie. Touche la tête.
Mais voilà, moi, je vois, donc avec une seule chose de plafond. Alors, chez vous, le plafond est un peu décoré. Mais quand même,
Alors, tu viens? Maman.
Ouais. Tu marches presque sur la ligne. C'est bien? Allez, pousse. Camille fait juste un petit appui. Allez, sur le... Eh ben ça y est, voilà. Bravo. Bravo, Léa. Hop là. Allez, Leïla, viens. Elle est fatiguée, Leïla. Elle n'en peut plus.
Merci. On peut applaudir Madame Bonaly.
Merci.
Bien, merci pour cette présentation, surtout bien illustrée. On va tout de suite peut-être passer à des questions. Oui, monsieur, puis après madame.
Oui, Régis Issico, Association IRSAM à Nice. Tout d'abord, merci pour la qualité de votre intervention. C'était vraiment très, 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 très intéressant. En préambule, tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait un impact des implants cochléaires sur les troubles vestibulaires. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Est-ce que c'est un mal pour un bien?
Alors actuellement, les préconisations actuelles, c'est de faire un bilan systématique vestibulaire dans le cadre du bilan pré-implant et de regarder l'état des vestibules. Si un vestibule est endommagé ou ne fonctionne pas, s'il y a un bout de système qui ne fonctionne pas, la proposition est faite de mettre l'implant du côté de l'oreille qui ne fonctionne pas bien, pour garder la fonction vestibulaire de l'autre côté. Puis, 3 semaines après, si les parents souhaitent une implantation bilatérale, on refait une exploration vestibulaire pour revoir l'état des vestibules et en fonction, le chirurgien peut proposer un deuxième implant. Voilà. Ce sont les préconisations qui sont actuellement données. Ça ne se fait pas de partout. Les parents ne sont pas forcément toujours informés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, dans la littérature, il est clair que l'intervention chirurgicale peut provoquer un déficit vestibulaire. Donc après, ce sont des choix qui appartiennent aux chirurgiens, aux parents, aux familles. Et si l'enfant présente à la sortie de l'opération un déficit vestibulaire, un syndrome vestibulaire, il serait logique de prendre en charge cet enfant tout de suite pour lui permettre de mettre en place les compensations le plus rapidement possible. Ça, on n'est pas encore là. Voilà. Mais ça serait l'idéal. Alors, nous, à Lyon, on a la chance d'accueillir les enfants à la suite du diagnostic en maternité. Donc, ils sont pris en charge très tôt. Et lorsqu'ils sont opérés, ils reviennent très tôt. Et du coup, on est extrêmement vigilant à voir dans quel état ils reviennent. Et pouvoir proposer à l'enfant une prise en charge adaptée. Je n'ai pas eu le temps de vous parler de la prise en charge. Ça serait peut-être l'occasion d'une autre conférence. Mais c'est vraiment important, et aussi avec des kinés vestibulaires, de prendre en charge, et aussi avec des orthoptistes, ça serait intéressant de très très tôt, très précocement, aider l'enfant à retrouver des repères. Ça, c'est essentiel. Mais on peut voir des enfants qui reviennent d'opération où ils ont vraiment perdu tous leurs repères dans l'espace, ils sont très mal, et il y a urgence à les prendre en charge. Et actuellement, la société banalise encore un petit peu cet aspect-là.
Oui, bonjour. Éducatrice à l'ASEI au Cival Lestrade sur un groupe d'adolescents DHA. Je voulais vous demander, est-ce que c'est opérable? Est-ce que c'est remplaçable?
Actuellement, dans le monde, il y a 10 patients qui ont été implantés avec un implant vestibulaire. On est vraiment au début des recherches, ça se passe sur Lausanne. C'est un implant qui a exactement la même caractéristique que l'implant cochléaire, seulement on pose un espèce de gyroscope, c'est-à-dire un capteur de mouvement qu'on pose ici sur la tête, et après on envoie 3 portes électrodes qui vont aller s'insérer dans les 3 canaux semi-circulaires. Le vestibule, vous avez la partie ronde qui est cette partie qui perçoit cette gravitation qui donne ce fil à plomb, et vous avez les 3 canaux semi-circulaires qui permettent de percevoir les mouvements de rotation angulaire de la tête. Et donc les 3 portes électrodes vont s'insérer dans les 3 canaux vestibulaires. Donc actuellement, ça a été proposé à 10 patients qui avaient une surdité et qui étaient extrêmement gênés par le déficit vestibulaire. Et donc, ils sont très contents de cet implant. Ils disent que ça leur change la vie. La seule chose actuellement, dans l'état des recherches actuelles, c'est que les patients, quand ils quittent l'hôpital, ils laissent le gyroscope à l'hôpital. Donc, ça marche quand ils sont à l'hôpital, mais ce n'est pas encore assez efficient pour qu'ils puissent l'emmener chez eux. En tout cas, ce qui est dit dans les derniers congrès, là, qui a eu... grand congrès d'ORL, c'est que finalement le handicap vestibulaire est bien plus invalidant et handicapant que l'handicap de la surdité à long terme.
Oui, c'est important ce que vous dites là, parce que souvent on le néglige. Enfin, il y a une question là, puis après pour monsieur.
Vous présentez. Oui. Bonjour, je suis Magali Filion, je suis psychologue dans l'Institut de jeunes sourds de Saint-Étienne. Donc cette intervention m'a beaucoup intéressée parce qu'on commence, mais tout juste, j'ai envie de dire, à être sensibilisée à ces troubles vestibulaires. Nous, concrètement, on reçoit des enfants à partir de 6 ans, enfin, et après. Pour certains, on commence à se dire, à regarder par cette lorgnette, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment, c'est tout nouveau pour nous. Notre psychomotricienne notamment a bien envie de se former un peu plus et de comprendre un peu mieux ce qui se passe avec ces troubles-là, mais actuellement pour elle est quand même bien en difficulté, c'est-à-dire qu'elle trouve un petit peu des choses notamment dans la littérature sur les enfants très jeunes, sur tout ce qui est là, comme vous travaillez au niveau précoce, mais avec des enfants plus grands qui se sont construits avec ces troubles, qui n'ont pas été pris en charge de façon précoce, puisqu'on en a qui sont comme 10 ans, qui sont adolescents et pour qui on peut supposer qu'il y a ces troubles-là. Concrètement, j'ai entendu des appuis, des choses assez concrètes qu'on peut essayer d'avoir en tête. Au niveau rééducation, qu'est-ce qu'on peut faire à cet âge-là, quand ils sont plus grands? Est-ce qu'il y a des choses vraiment qu'on peut travailler?
Oui, il y a vraiment tout un travail à faire sur cette prise de référence spatiale. Parce que ce sont des enfants qui vont construire le monde autrement que nous. Ils vont utiliser d'autres circuits neuronaux. Et il va falloir leur apporter l'information d'une façon différente. Ce qui se passe, c'est que, je parle pour les enfants qui sont aréflexiques de naissance, c'est-à-dire qu'ils n'ont vraiment aucune information vestibulaire. Ces enfants-là, lorsqu'ils regardent le monde, ils n'intègrent pas la dimension de la pesanteur. C'est-à-dire que s'ils voient un objet, ils ne peuvent pas le projeter, cet objet, comme tombant ou le fait que l'objet est orienté haut-bas. Donc, il va falloir leur apprendre par le langage, par d'autres façons. Les enfants qui ont des bonnes compétences cognitives, le langage marche très bien parce que les mots lui diront « ta tête est en haut, tes pieds sont en bas, mais là c'est ton côté, c'est à droite ». Voilà, de construire le monde par des représentations cognitives, ça fonctionne très très bien. Après, dans l'expérimentation, il y a non seulement à travailler sur ce référentiel corporel qu'ils n'ont pas, avec cet axe, avec le haut, le bas, la droite, la gauche, et puis après il va falloir les faire naviguer dans l'espace et les amener à faire ce travail de rotation mentale, c'est-à-dire d'aller se mettre à la place de l'autre. Et là, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on voit bien que le sens vestibulaire intervient dans tous ces phénomènes de sympathie, d'empathie. Pour pouvoir prendre l'expression de l'autre, il faut aller se mettre à sa place, il faut faire cognitivement cette rotation mentale, se mettre à la place de l'autre. On voit l'autre et après on revient à soi. Ça, ce sont des mécanismes cognitifs qui sont en lien avec le sens vestibulaire et avec aussi tout ce système de géolocalisation et de se rappeler des mouvements qu'on fait quand on se déplace. C'est la mémoire des trajets dans l'espace. Il y a des enfants plus grands, c'est assez impressionnant, ils sont en incapacité de retrouver leur chemin entre la cour de récréation et la classe, alors que la classe, ils la connaissent par cœur. Vous voyez, ils sont en incapacité d'intégrer toutes ces informations dans l'espace. Donc il y a tout un travail à faire vraiment d'aide avec ces enfants. Et des fois, ça peut être des choses toutes simples. C'est-à-dire, on leur dit « ta tête est en haut ». Voilà, on prend la feuille, on la met devant. Puis attention, on fait descendre la feuille, on change de plan. Voilà, mais on a mis le repère tête en haut. Et donc l'enfant, il peut faire cette représentation « le haut de la feuille est là ». Vous voyez, où il y a des enfants qui sont très gênés, par exemple, vous leur donnez, je ne sais pas, ça c'était aussi intéressant, chez des enfants plus grands, le test, j'ai dû le mettre là en bas. Vous voyez, quand je parle de rotation mentale, c'est ça, c'est cette capacité de manipuler l'espace, de ces changements de point de vue. Je suis positionnée dans un espace, mais je suis capable de faire des changements de point de vue, de me projeter. En fait, c'est comme si le professeur Berthaus dit, c'est j'envoie mon avatar à tel endroit et il me dit où je suis capable de faire toutes ces corrélations dans l'espace. Alors, par rapport au dessin, prenons la figure de Ray. Ça, c'était très intéressant, cet enfant-là. Alors, on voit que l'architecture, vous voyez, elle est pas respectée. Le grand rectangle de base n'est pas respecté. Les éléments sont disjoints entre eux. Mais c'est surtout intéressant, c'est qu'il a commencé là, en bleu, à démarrer la forme. Il s'est arrêté et puis il s'est déplacé pour aller se mettre face de telle manière à ce que la forme soit en haut par rapport à lui, vous voyez. Parce qu'il est incapable de faire cette rotation mentale dans l'espace. C'est lui qui tourne autour de la feuille pour aller se positionner comme si, en fait, il avait basculé la feuille par rapport à lui. Donc, vous voyez, c'est des choses toutes simples, mais les adaptations peuvent être en classe. Enfin, je veux dire, si l'enseignant met des repères sur la feuille, haut, bas, des choses un peu toutes simples qui vont permettre à l'enfant, finalement, de construire l'espace autrement, ça peut être des adaptations qui ne sont pas compliquées, mais qui vont être grandement utiles pour ces enfants. Et puis, surtout, c'est vraiment reprendre cet axe. Voilà. Et après, apprendre à tout déverrouiller, parce que ce sont des enfants qui sont comme ça. Donc, il faut réapprendre à déverrouiller la tête, à déverrouiller le bassin, déverrouiller les jambes. Tout ça, ils n'ont pas une bonne conscience de leur mouvement, ils n'ont pas une bonne conscience de leur schéma corporel, et ils sont très, très gênés dans les navigations spatiales, ces enfants-là. Et vous avez vu, il y a des enfants qui peuvent aussi être très gênés par les champs visuels. Donc vous avez vu, si l'enfant tourne la tête, il emmène tout champ visuel avec lui. Alors quand il est à la maison, dans des lieux connus, il a ses repères fixes visuellement et il se débrouille comme ça. Mais dès qu'il sort dehors, c'est terrible. La cour de récréation, pourquoi les enfants bougent, il y a des oiseaux qui passent dans le ciel, il y a les feuilles des arbres qui bougent, tout ça c'est déstabilisant, c'est l'horreur pour ces enfants. Et ça entraîne beaucoup de fatigue. Donc soit les enfants réagissent en se mettant en retrait, soit ils réagissent en s'agitant, en étant très instables. Voilà. Et après, quand ils sont plus grands, pour les personnes sourdes qui sont en langue des signes, c'est extrêmement perturbant pour eux lorsqu'ils sont en cercle. Les ados aiment bien se mettre en cercle comme ça, ils signent. Et en fait, ils ont du mal à passer d'un interlocuteur à l'autre. Donc ça crée des comportements chez eux, ça renvoie à beaucoup de violence parce qu'ils sont très gênés, ils n'arrivent pas à suivre les plusieurs conversations. Et les jeunes adolescents ne savent pas pourquoi ils sont comme ça. Et ça, ils sont très agressifs, du coup.
Il y avait une question, peut-être.
Endommagé, non, mais par contre, il va y avoir un détournement des fonctions. On voit bien que l'enfant sourd, qui a un déficit vestibulaire, pour tenir son équilibre, il va être obligé d'utiliser sa vision pour fixer des points fixes pour se tenir en équilibre. Par exemple, si je vous imaginez que vous traversez une passerelle là dans le vide, comme ça, ça bouge dans tous les sens. Qu'est-ce que vous faites? Vous figez, vous regardez l'arbre qui est en face, vous ne quittez pas l'arbre et vous avancez droit pour tenir votre équilibre. Si je vous dis combien fait 2 plus 2, soit vous me répondez et vous tombez, soit vous ne me répondez pas et vous avancez. Vous ne pouvez pas être en double tâche. Et donc les enfants, ils utilisent leur vision au profit, au service de l'équilibration. Donc du coup, ils vont détourner le sens de la vision et ils ne vont pas amener à maturation la vision comme un enfant le ferait classiquement parce que la tête ne bougeant pas, les yeux n'allant pas de partout pour chercher les informations. Du coup, on voit que voilà, c'est un handicap ajouté, un surhandicap. Enfin, je sais pas comment on... Oui, ça provoque un surhandicap. Voilà. Et ça, on a tendance à l'oublier. Mais l'odorat, je pense. Alors, oui. Vous vous rappelez, il y a 3 entrées sensorielles pour tenir en équilibre. Donc, si vous avez déjà plus le vestibule, vous n'avez pas la vue, ou quand la lumière baisse, eh ben, il reste plus que la proprioception. Et le problème de la proprioception, c'est que cette sensation des muscles, des tendons, tout ça, c'est senti en interne, mais ça ne vous donne pas du tout, ça ne vous dit pas comment vous êtes dans l'espace. C'est la vision qui vous dit comment vous êtes dans l'espace, que votre bras est là, voilà. Et du coup, ben, c'est extrêmement gênant. Donc, ce sont des personnes qui sont extrêmement gênées. Les jeunes enfants, par exemple, ils ne veulent pas aller coucher chez les copains parce qu'ils ne savent pas trop comment ça, la lumière va être. Ils ne savent pas trop voilà, si on va éteindre la lumière dans la chambre. Enfin, ça crée au niveau social voilà, des limitations. Mm-hmm. Et c'est important de le savoir parce que l'enfant, lui, il ne sait pas pourquoi. Mm-hmm. Et c'est tellement simple de lui expliquer.
Je vais me permettre de... Je connais des gens qui présentent des troubles vestibulaires. Ce sont les astronautes, les gens qui vivent en apesanteur, les personnes qui font de la plongée, les personnes qui font de la chute libre. Ma question, c'est ces personnes-là, donc ils s'adaptent un petit peu à leur environnement. Hein. On voit que le Berthoz a travaillé aussi là-dessus, etc. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir dire de l'adaptation, non pas du sujet, mais de son environnement à ces problèmes vestibulaires, quand l'environnement change, par exemple?
Quand l'enfant doit changer d'environnement, eh ben c'est très compliqué pour lui. Mm-hmm. C'est source d'angoisse, c'est source surtout de beaucoup d'énergie. On n'imagine pas comme c'est coûteux pour lui. Il faut qu'il reprenne des références visuelles et surtout que l'enfant est très dépendant visuellement puisque sa maturation, la fonction visuelle arrive très tardivement. Donc c'est source d'angoisse, d'inquiétude. Mm-hmm. C'est compliqué. Le monde est inconnu. Il faut le construire, il faut le reconstruire. Les enfants qui ont des bonnes capacités cognitives, ils s'en sortent bien. Les enfants qui ont des capacités cognitives plus limitées, ils ne trouvent pas les compensations. Ils n'arrivent pas à construire le monde autour d'eux. Et c'est ces enfants-là qui ont vraiment besoin d'être aidés. Mais je dirais, peut-être pour terminer, j'ai le témoignage d'une jeune femme qui a 23 ans maintenant, qui est sourde à réflexique.
Oui.
Et une jeune fille extrêmement pertinente qui parle deux langues, qui a fait des études supérieures. Donc la surdité, c'est quelque chose qu'elle a complètement apprivoisé. Et en fait, elle est très, très gênée par son déficit vestibulaire. La seule chose, c'est que personne ne lui a dit. Et on a revisité, elle a fait un bilan vestibulaire à l'âge de 22 ans. Et avec la psychomotricienne, une de mes collègues, elle a revisité tous ses troubles en mettant du sens. Et elle a découvert, en fait, que quand elle était petite, on passait son temps à la traiter de poule mouillée parce qu'elle n'aimait pas bouger. Que quand elle allait faire du ski, c'était impossible pour elle, mais elle ne savait pas pourquoi. Que quand elle allait nager, c'était épouvantable. Et là aussi, on la traitait de poule mouillée et que, en fait, elle ne savait pas pourquoi elle était comme ça. Que quand elle nageait, si elle n'avait pas de lunettes de piscine, et ben, dans l'eau, n'ayant pas cette perception de la pesanteur, elle ne savait pas où elle était. Donc une fois, elle s'est trompée de sens, elle est allée dans le fond, elle s'est tapée la tête contre le sol de la piscine. Donc là aussi, ces enfants, il faut absolument qu'ils aient des lunettes quand ils vont en piscine. Et puis, plus tard, encore plus invalidant, c'est une jeune femme qui ne peut pas apprendre à conduire. C'est impossible. Oui. La gestion du mouvement visuel, c'est et tout ça, si on ne lui explique pas, ben, c'est terrible à vivre.
Bien sûr.
Voilà. Et la dernière chose aussi, par rapport à cette jeune femme, parce que je trouve que c'est important, elle a fait le choix d'un métier et en fait qui l'handicape parce qu'elle travaille avec des jeunes enfants. Les enfants bougent tout le temps. Elle est tout le temps en arrêt maladie. Elle ne peut pas faire les sorties en extérieur. Et je me dis, quelqu'un l'aurait accompagnée, l'aurait expliqué, l'aurait peut-être aidé à faire un choix qui soit plus compatible avec son déficit. Ça aurait peut-être évité tout ce mal-être.
Bien sûr. Voilà. Bien, ben, encore merci pour la qualité de votre présentation. Hein. Et puis, merci aussi aux enfants, aux parents que vous avez filmé. Alors avant de passer à la suite, j'ai une information, enfin vous l'avez déjà entendu de Maurice Beccari tout à l'heure. Je vous rappelle qu'il y a un changement dans le programme de cet atelier, que tout à l'heure nous allons écouter les incassables, ça, on va leur poser la question d'ailleurs, mais c'est un peu vrai, et que l'atelier de dramathérapie aura lieu lui à 15h15. Hein. Première information. Deuxième information que je voulais vous dire, les posters seront à votre disposition et les personnes pourront discuter avec vous de ces posters pendant la pause du déjeuner tout à l'heure. Alors, avant qu'on passe donc à ces incassables ou incassables, on va voir un petit peu, je vais prendre quelques minutes pour donner la parole à nos partenaires qui vont vous dire quelques mots peut-être... est-ce qu'ils sont là, la piscine? Venez vers moi pour dire quelques mots à notre assemblée et présenter un petit peu pendant que l'équipe s'installe pour la suite de l'intervention. Je vous laisse vous présenter. Vous avez des ateliers pendant 20 minutes, d'accord.
Dire deux mots sur Corum pour le coup. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Pascal Gour. Moi, je suis le délégué régional de Corum. Voilà, on a un stand dans la partie du fond de l'étage ici. Donc, simplement pour vous dire qu'on est partenaire effectivement de la FISAF sur votre congrès et qu'on va animer d'ailleurs un petit atelier tout à l'heure, enfin dès à présent, sur la couverture santé. Et les lois la loi qui oblige au niveau des associations à mettre en place un régime au 1er janvier 2016. Voilà, il y a des conventions collectives comme la convention 66 qui a prévu déjà un avenant au niveau de sa convention. Donc je pense que beaucoup de vos structures dépendent de la convention 66, mais je parlerai aussi de la convention 51, ça peut vous intéresser. Voilà, donc je ne sais pas où a lieu exactement l'atelier, mais il y a plusieurs ateliers apparemment à partir de 11h sur différents thèmes qui sont animés par les partenaires de votre congrès.
Je suis un peu pris de court parce que je ne sais pas où ont lieu ce... Est-ce qu'elle est sur votre stand ou elle est ici? Non,
dans des salles particulières.
Ah, d'accord. Ben, il faudrait demander à Madame Larsam. Au fond. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Attendez, elle va venir peut-être nous dire. Ben à ce moment-là, on reprend ça parce que là, on va commencer la. C'est l'heure de la prochaine intervention, alors ça m'ennuie un peu. Ou alors on le reprend peut-être à la fin de l'intervention. Comme ça, vous l'organiserez mieux. Hein. Si vous êtes d'accord, on a une intervention là qui va durer jusqu'à 12h15. Et est-ce qu'on ne pourrait pas l'installer à 12h15 avant le déjeuner?
C'est vrai que là, je bois parole à nos intervenants. 11h, 11h20, ça devait durer 20 minutes.
Oui.
Alors, à moins qu'on la fasse ici, hein, pourquoi pas. Moi, je veux bien la faire ici, l'intervention. Ça ne dure que 20 minutes. Hein, donc,
d'accord. Le problème, c'est que sur notre programme...
C'est ici, a priori.
C'est ici?
D'accord. Ben,
bah, écoute...
Je vais...
Voilà. Si vous pouvez, alors à ce moment-là, peut-être réduire au niveau du temps.
On va essayer.
Allez, d'accord. Donc juste une intervention, puis après vous interviendrez.
Mais là c'est mon ordi et je suis embêté avec en plus.
Il y a possibilité de l'utiliser ou pas?
Oui, je ne sais pas s'il va pouvoir fonctionner, c'est ça mon souci. Là. C'est notre environnement de travail tous les jours. Oh, bah vous m'enlevez ma photo.
Au moins, ce sera un peu plus gros pour...
Voilà,
10 minutes.
Ah bah, on va essayer.
C'est
plus dire grand chose pour le coup.
Je vais adapter. Oui, après, une fois qu'elle apparaît.
Oui.
Voilà, c'est bien ça. Je pense que ça peut intéresser en plus. Donc.
Bien, alors on va écouter Monsieur Gour, s'il vous plaît.
Oui, bonjour à tous. Donc un atelier qui devait durer 20 minutes, qui sera peut-être un peu plus court, qui aurait pu durer 2 heures, mais je ne vais pas durer 2 heures. Donc je vais m'adapter. Je pense que je vais essayer de vous donner les grandes lignes. Et puis, s'il y a des questions, bon, on pourra peut-être prévoir un temps d'échange parce que c'est ça qui est intéressant. Ou si on ne peut pas le faire dans le temps de la plénière ici, vous pourrez nous rencontrer sur le stand Quorum qui est au fond à gauche, on va dire. Alors, vous êtes... Alors, Quorum, en deux mots, c'est une mutuelle qui a été créée par des acteurs de l'économie sociale pour des structures comme vous de l'économie sociale. Donc on est issu du monde associatif et mutualiste et on a été créé pour les salariés des structures que vous gérez. Donc on est vraiment à votre disposition et on travaille depuis très longtemps sur l'accompagnement des salariés dans votre secteur d'activité. On a créé une structure qui s'appelle CIDES, que vous connaissez peut-être parce qu'elle est à votre disposition en termes d'outils pour faire des recherches, des études, de la prévention, une analyse au niveau des ressources humaines. Et on a beaucoup travaillé avec vos associations sur tous ces aspects-là. Et on a un certain nombre de référentiels aussi qui ont été mis à votre disposition, plus particulièrement aux adhérents de Quorum, puisque c'est vrai que je ne l'ai pas dit, puisque je vais un petit peu vite. Mais notre métier de base, c'était plutôt la retraite complémentaire et la prévoyance. Donc beaucoup d'entre vous sont adhérents Quorum, peut-être même sans le savoir, au niveau des régimes de prévoyance, donc décès, incapacité, invalidité. Et on est désigné dans la convention 66-51, enfin toutes les conventions collectives du secteur économie sociale. Et en plus, pour les secteurs de l'économie sociale, on crée donc des outils, on met à disposition des outils qui vous permettent, vous, de pallier des fois des postes que vous n'avez pas en termes de ressources humaines, en termes de directeurs financiers. Et on sait que dans l'économie sociale, il y a social, mais il y a aussi économie. Et c'est vrai que tout ce qui est ressources humaines, c'est principalement vous. Vos ressources, ce sont les hommes, les femmes qui sont vos salariés. Mais vous le savez, et très récemment, il y a beaucoup d'éléments dans les lois ou dans les conventions collectives qui bougent et qui font que vous avez aussi à vous adapter par rapport à ces contraintes. Donc, l'une de ces contraintes, c'est plusieurs lois et plusieurs décrets qui sont parus au fil du temps. Alors, les noms ne vous parlent peut-être pas, mais bon, ceux qui est le plus courant aujourd'hui et le plus entendu, c'est la généralisation de la complémentaire santé au 1er janvier 2016. Je dis bien 1er janvier 2016, même si, effectivement, il y a déjà des accords qui sont parus au niveau des conventions collectives. Il y a des décrets sur l'égalité de traitement. Les clauses de désignation ont perdu de leur valeur puisqu'elles ne seront plus dans les accords conventionnels. On en parlera maintenant de clauses de recommandation. Et puis, le décret du 9 janvier 2012 permettait de voir au niveau des contrats s'il n'y avait pas de la discrimination au niveau des entreprises et donc des associations. Donc, se mettre en conformité avec ce décret permettait de mettre en place des régimes de protection sociale pour tout le monde. Je vais vite, forcément, ça sera un peu plus compliqué à comprendre.
Non, mais...
Voilà, 2014-2016, donc il y a une grande période de transition qui n'est pas facile. Vous devez être hyper sollicité, vous, en tant qu'association, en tant qu'employeur, par rapport surtout à la généralisation de la santé. Mais sachez qu'il y a beaucoup de projets dans le gouvernement aujourd'hui. Il y a la réforme de la CMU complémentaire qui est financée par les mutuelles. Il y a des éléments liés à vos contrats de santé au niveau collectif qui vont, qui viennent juste de paraître. C'est le panier de soins minimum qui date du 1er janvier, du 1er septembre, enfin de début septembre. Il y a la réforme du contrat responsable qui va fixer des maximums. Et c'est vrai que vous, en tant qu'employeur, vous devrez, si vous n'avez pas mis en place de régime complémentaire santé, tenir compte de ce minimum de panier de soins et du maximum qui est prévu dans le contrat responsable. Alors, en synthèse, alors je fais déjà, voilà, ça tombe bien pour le coup. Vous devez, vous, aujourd'hui, si vous avez un contrat de prévoyance, de santé, aujourd'hui mis en place dans votre structure, vous devez assumer un certain nombre de formalismes. Vous devez avoir un acte, si votre accord ne dépend pas exclusivement de la convention collective, un acte de mise en place, qui s'appelle la décision unilatérale de l'employeur, DUE, où vous devez définir, sous peine de sanction, je le dis quand même, et les contrôleurs URSSAF aujourd'hui veillent à tout ça, si vous êtes en dehors de convention collective, vous avez bâti des régimes de protection sociale, il faut écrire tout ça. Il faut définir la catégorie de salariés couverts, les conditions d'ancienneté, etc. Si vous dépendez d'une convention collective comme la convention 66, là, c'est la convention collective qui fixe les règles du jeu. Donc, si vous respectez les règles du jeu de la convention collective, vous n'avez pas besoin de formalisme. Mais comme je sais aussi dans vos secteurs qu'il y a beaucoup d'associations qui appliquent à titre volontaire les conventions collectives, mais pas à titre obligatoire, parce que, sachez-le, si vous ne le savez pas, les conventions 66 et 51 ne sont pas étendues. Donc, il faut être adhérent à un syndicat employeur pour que ça soit rendu obligatoire aux salariés. Et il y a beaucoup d'associations, y compris dans les adhérents de Corum, qui appliquent à titre volontaire, mais appliquer à titre volontaire, c'est aussi appliquer pas forcément la totalité de la convention collective. Donc, forcément, si vous n'appliquez pas tout, il faut écrire ce que vous appliquez et ne pas écrire ce que vous n'appliquez pas. Donc ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, tout ça n'était pas vraiment contrôlé. Ça l'est de plus en plus dans le cadre des contrôles URSSAF. Ils veulent avoir des écrits pour tout. Écrits, vous, employeur, vis-à-vis de vos salariés. Et puis, information, notice d'information qui doivent être données aux salariés. Et puis, il y a des choses comme la portabilité, le fait d'étendre aux salariés qui sont au chômage la garantie mutuelle et la garantie prévoyance l'année prochaine, fait que vous devez écrire les modalités de prise en charge de tous vos salariés. Voilà, donc vous devez vous poser des questions. Alors, parce que je suis obligé d'aller vite, le support, on vous le mettra à disposition pour que ceux que ça intéresse, à ce moment-là, venez vous inscrire sur le stand Corum. On vous donnera l'intégralité de l'intervention qui, là, effectivement, est prévue plutôt pour une demi-heure que pour un quart d'heure. Donc, il faudra vraiment, dans vos associations, et tenir compte des statuts de salariés particuliers. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas distinguer les CDD et les CDI, par exemple. Les personnes en insertion ne peuvent pas être différenciées du personnel encadrant dans des structures d'insertion. Donc tout ça doit être défini, doit être écrit aussi. Et si vous avez encore des contrats qui ne sont que pour les CDI ou pour des catégories de personnel, il faut vérifier que ces catégories sont bien objectives pour ne pas être en situation de discrimination sanctionnable par justement le fameux contrôle URSSAF. Ensuite, vous devez. Alors, les catégories objectives, c'est effectivement c'est les cadres et les non-cadres, mais dans certaines associations, il y a d'autres types de statuts. Donc, on ne parle plus. Alors, c'est surtout au niveau des entreprises, mais il y en a encore dans le secteur associatif. On ne parle plus de cadre dirigeant, ça n'existe pas. Ça n'existe plus, en tout cas, vous ne pouvez pas mettre en place des contrats uniquement pour des cadres dirigeants. Et vous devez définir ces catégories en fonction des statuts classiques. Alors d'ailleurs, on ne peut même plus parler de cadre et de non-cadre, puisque c'est soi-disant aussi des catégories, en tout cas des intitulés que vous ne verrez plus dans les contrats. On parle d'article 4.4 bis de la convention collective du 14 mars 1947 pour définir des cadres. Et puis ceux qui ne sont pas dans ces articles-là sont qualifiés de non-cadres. Mais bon, pour être audible vis-à-vis de vous, on parlera encore de cadre et de non-cadre. Alors, donc il y a différents décrets qui sont parus. Donc la couverture minimale, peut-être vous en avez entendu parler, mais elle est vraiment officielle que depuis début septembre. Elle oblige l'employeur à un certain nombre de garanties, hein, par exemple la prise en charge du ticket modérateur, du forfait journalier hospitalier au niveau de la santé. Et puis, la part que doit prendre en charge l'employeur, je sais que beaucoup d'associations aujourd'hui participent à minima pour la couverture de leurs salariés. Avec la généralisation de la mutuelle, ça sera une obligation d'assurer 50% du financement au niveau du salarié. Et donc la date d'effet, c'est 1er janvier 2016, même si vous êtes sollicité et qu'on vous dit qu'il faut adhérer tout de suite, attendez plutôt les décrets d'application des avenants des conventions collectives. Donc sont aujourd'hui parus l'avenant de la convention 106 sur la complémentaire santé. Il y a aussi tout ce qui est logement social, PAC Tarim, foyer jeunes travailleurs, CHRS, où là des accords sont déjà en place et ça ne sert à rien d'aller sur d'autres accords, aller sur les accords avec mutualisation et avec recommandation. Voilà, donc ce fameux décret du 8 septembre 2014 précise tout. Aujourd'hui, le forfait journalier hospitalier aujourd'hui n'est pas forcément couvert en intégralité sans limitation de durée. Le décret minimum du panier de soins va le permettre, va même l'obliger. Vous ne pourrez plus avoir des contrats qui limitent, par exemple en psychiatrie, le forfait journalier hospitalier. Et donc, il y a des cas de dispense. Donc ça, c'est les questions qu'on nous pose, nous, les adhérents Corum, nous posent souvent les questions de qui doit adhérer à un régime complémentaire. Donc sachez qu'il y a un certain nombre de dispenses qui sont prévues. Si je prends l'exemple de la Convention 66, il est prévu pour les CDD qui ont une mutuelle individuelle, on prévoit de pouvoir les dispenser. C'est-à-dire que c'est le salarié qui va dire « je ne veux pas de la mutuelle parce que je suis en CDD de moins de 12 mois et parce que j'ai une mutuelle individuelle. Je peux aussi ne pas adhérer si j'ai une mutuelle obligatoire par le conjoint. » Donc tous ces cas-là, on va les voir un petit peu plus tard. Voilà, je vais vite. Les cas d'affiliation, voilà, ils sont listés ici. Bien sûr, à la mise en place, si vous ne dépendez pas d'un accord conventionnel, vous pouvez aussi, les salariés à la mise en place peuvent dire non à la mutuelle sans forcément justifier, c'est ce qu'on appelle la loi E20. Les cas de dispense, ben là, les CDD peuvent être dispensés, mais c'est vraiment eux qui seront à l'initiative de la dispense. Et puis ceux qui sont salariés à temps très partiel, qui ont des rémunérations faibles, pourront dire non à la mutuelle aussi. Et puis, bon, tous les bénéficiaires de la CMU, l'aide à la complémentaire santé et ceux qui sont couverts par un contrat individuel qui n'a pas pu être résilié avant le terme, puisque tout ça va s'accélérer et que les mises en place de contrats santé vont vite arriver et avec une période de pointe au 1er janvier 2016. Voilà, et là, c'est le cas. Bon, le cas le plus ardu, c'est celui des ayants droit au niveau des conjoints. Il faudra vraiment que le conjoint ait une mutuelle obligatoire qui rend obligatoire la couverture des ayants droit pour bénéficier d'une dispense. Ce qui, à mon avis, sera très peu le cas. Des contrats de conjoints qui couvrent de manière obligatoire le conjoint, c'est très très rare. L'élément pour voir si c'en est un, c'est effectivement d'être sur une cotisation famille. Voilà, et donc, pour terminer, il faudra veiller à ce que vous puissiez fournir un certain nombre de documents à vos salariés qui permettront d'avoir ce devoir d'information et d'être dans cette obligation d'informer les salariés. Si vous n'informez pas les salariés, vous pouvez être aussi sanctionné. Voilà, alors j'aurais aimé détailler peut-être le régime de la Convention 66, mais peut-être que j'en ai pas forcément le temps. Voilà. Enfin, sachez, juste un mot quand même, puisque on m'a dit qu'il y avait beaucoup de structures qui dépendaient de la Convention 66, que Corum, parce que vous allez voir dans l'avenant, il y a plusieurs organismes recommandés dans la Convention collective. Corum a fait le choix de travailler avec les mutuelles de la Mutualité française. Donc on est un groupement qui s'appelle l'Alliance Mutualiste, qui regroupe des mutuelles comme Harmonie, comme EOVI, Adrea, pour ne citer que les plus importantes, qui va travailler avec nous sur la mise en place des régimes au niveau des conventions collectives. Donc, sachez que Corum, en tant que tel, nous ne vendrons pas de la complémentaire santé. Par contre, nous allons travailler avec la mutualité, les vraies mutuelles, pour vous donner des solutions. Et sur la Convention 66, qui est intéressant, à mon avis, n'allez effectivement pas voir ailleurs, il est prévu un régime de base qui est assez important, Contrairement à ce qu'on voit dans les autres conventions collectives, le régime de base couvre par exemple une paire de lunettes aux alentours de 400-500 euros. C'est des montants assez importants sur le régime de base, mais qu'il y a aussi des possibilités d'options qui sont prévues dans le régime conventionnel. Donc le régime est déjà proposable aujourd'hui puisqu'il est en attente d'agrément. Donc vous savez que ça aussi, ça passe par les financeurs. Les financeurs vont agréer ou pas les accords, mais quelque part, ça ne changera rien puisque une loi, de toute façon, obligera tout employeur à avoir un régime complémentaire santé. Le tout, c'est de le mettre en place sur des budgets qui seront appropriés. Et c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas de convention collective, j'étais hier dans une association, on m'a dit on met en place le minimum et les salariés, à titre individuel, choisiront des options surcomplémentaires. Donc on va vers un système régime de base sécu, régime complémentaire d'entreprise et surcomplémentaire individuel, puisque la plupart des régimes conventionnels ou des régimes mis en place par les associations, puisque vous n'avez pas forcément de marge de manœuvre au niveau financier, ça sera souvent sur des bases minimum. Donc pour ces accords et les accords à venir, sachez qu'il y a un appel d'offres qui est paru aussi sur la convention 51 et qui va lui aussi certainement aboutir. Sachez que Corum et la mutualité française seront à votre disposition pour mettre en place ces régimes.
Merci, voilà. Monsieur Gour. Et puis, rendez-vous donc sur le stand pour toutes les questions que vous aurez sûrement à poser sur cette présentation, quand même, qui était relativement complète et qui demande de votre part des réponses qu'on aura sur votre stand. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et bien, nous allons continuer notre matinée avec l'intervention du CESDA, Richard Chapon de l'IRSA. Alors, j'ai dit tout à l'heure, je me suis trompé dans le titre, j'ai dit les incassables. Alors, je dis, il leur manque une case, quoi. Enfin, il manque une case quelque part. Alors, on va écouter Eric Zamit et puis le docteur de Bruges qui vont nous parler, justement, non pas des incassables, mais des incassables. Ils n'ont pas de case, quoi. Il leur manque une case, quelque part. Je vous laisse la parole, alors.
Il manque une case, nous.
Merci. Oui, c'est pas pareil, bien sûr, vous avez raison.
Bonjour, Eric Zamit, je suis chef de service au CESDA Richard Chapon à Bordeaux. Et c'est une intervention que nous vous proposons à deux, avec le docteur de Bruges, qui interviendra après moi. On s'est un peu réparti le travail et je vais peut-être plus parler de la case et lui plus du sujet, même si on l'a vu depuis le début des interventions, dans ce monde complexe, tout ça s'intrique. Donc, mon intervention porte davantage, moi, sur des données sur le territoire aquitain, sur l'offre de services, la case, et docteur de Bruges sur ces fameux incasables. Alors, malgré tout, je suis en poste de chef de service et dans mon service, j'accueille des jeunes qui relèvent de ces incasables dont on ne sait pas quoi faire et qui, au quotidien, demandent aux équipes d'innover, de toujours créer de nouveaux types d'accompagnement et qui provoquent de l'usure, souvent, on l'a vu déjà. Donc, voilà, quelques données au niveau donc national et du territoire aquitain. Ce propos, je l'appuie aussi sur une étude que j'ai faite sur les CEFS, donc les services de soutien à l'éducation familiale et à la scolarisation de l'INJS et du CESDA en 2013. Voilà, donc rappelez peut-être que la déficience auditive, c'est une part petite de la population française, 8,7%. Et dans cette part-là, 60% sont des personnes âgées aujourd'hui, 4,1% moins de 20 ans. Moi, je m'occupe d'un service pour adolescents. Donc, tout ça pour relativiser un petit peu et appuyer le fait que on parlait régulièrement de handicap rare. On est sur des proportions de population qui ne permettent pas toujours d'avoir des réponses collectives à grande échelle. Voilà, donc 0,5 naissance sur 1000 naissances d'enfants présentent une surdité associée à une autre déficience à la naissance. Sur la question de la déficience associée à la surdité, on a évoqué plusieurs types de déficiences associées. Notre propos va principalement s'axer sur les déficiences psychiques des jeunes. C'est là, à ce niveau-là, au niveau des services adolescents du CESDA, où nous sommes le plus en difficulté dans l'accompagnement. Voilà, sur le territoire aquitain, donc la population accueillie sur la CEDA du CESDA est composée principalement de jeunes sourds profonds. Donc sur la population aquitaine, ça représente une petite partie de cette population. Et en gros, environ 200 enfants et adolescents sur l'Aquitaine. Alors, juste pour préciser à ceux qui connaîtraient peu cette magnifique région, on nous a enlevé tout à l'heure, technicien, la magnifique photo du banc d'Arguin que je vous avais proposé, qui n'est pas la vue depuis mon bureau. Sur le territoire aquitain, il y a trois gros établissements qui interviennent, basés sur Bordeaux, l'INJS, je l'ai évoqué, le Centre d'audition et du langage et le CESDA. Sur la population adolescente sourde avec troubles associés, nous sommes les seuls au niveau du CESDA à accompagner les jeunes sur l'ensemble du territoire. Il y a des accompagnements qui sont proposés pour des jeunes sourds en CEFS ou en CESAD sur les Pyrénées-Atlantiques en particulier, mais la dimension du handicap associé est peu prise en compte et souvent ces jeunes sont contraints d'arriver sur l'internat du CESDA dans notre structure. Voilà, donc j'ai réalisé cette petite étude en vue de la réécriture du projet d'établissement. Et ça concerne donc 221 enfants adolescents suivis par les CEFS de l'INJS et du CESDA. Donc ce tableau reprend, le postulat c'était qu'est-ce qui est mis en place actuellement pour les jeunes et qu'est-ce qui serait souhaitable qu'ils bénéficient en termes d'accompagnement. Donc voilà, un accompagnement thérapeutique est proposé en individuel, en groupe, parfois les deux, des suivis psychomoteurs, rééducation orthophonique, des besoins en scolarisation en établissement spécialisé, par intervention sociale extérieure, on évoque des mesures d'accompagnement des familles dans des contextes sociaux complexes, et puis les besoins en partenariat dans le domaine des soins psychiatriques. Alors, tableau met en lumière que un peu moins de la moitié des jeunes ne bénéficient pas de suivi thérapeutique alors qu'ils en auraient besoin. 15% auraient intérêt à suivre une scolarité en établissement spécialisé. 8% de ces jeunes auraient besoin d'un suivi psychomoteur. La particularité là, de l'étude, elle porte sur des jeunes qui sont suivis par le CEFS, qui ne disposent pas d'un plateau technique incluant des moyens à mettre en œuvre en direction d'un accompagnement thérapeutique conséquent, se pose à partir de là forcément la question des partenariats, on l'a évoqué plus tôt, et dans ce domaine-là, alors le docteur de Bruges pourra en parler aussi, mais sur Bordeaux, sur l'Aquitaine, ces partenariats sont difficiles à mettre en œuvre et les relais peu présents. Voilà, sur le CEFS du CESDA, sur une population de 30 jeunes accueillis, 2 jeunes présentent des troubles autistiques, 3 nécessiteraient un accompagnement soignant plus important, et sur ces 5 jeunes, 3 bénéficient d'un accompagnement psychothérapeutique et seul l'un d'entre eux est suivi par un CATTP. Voilà, je reviens sur le partenariat dans le domaine des soins thérapeutiques. Donc on l'a vu sur le tableau, enfin j'ai passé rapidement la diapositive, mais l'écart, même s'il est faible, peut-être n'est-il pas complètement représentatif. Les troubles psychiques associés ne sont pas toujours repérés. Chez les jeunes sourds, sur le territoire, on a la chance de disposer d'un CAMS spécialisé audiologie basé à l'hôpital, qui sert de dépistage et de prescripteur. Cependant, ces jeunes scolarisés en milieu ordinaire sont suivis au niveau de pluridisciplinaire, principalement par des enseignants, et ces troubles psychiques, s'ils sont rapportés par les enseignants, ne sont pas toujours forcément diagnostiqués. On se heurte aussi souvent à une minoration de ces troubles par les familles qui insistent beaucoup sur la dimension audiologique. Et puis sur le fait que sur le territoire, il n'existe pas de structure adaptée dispensant des soins thérapeutiques en dehors de notre structure, principalement de type hôpital de jour pour adolescents sourds. Voilà pour mon intervention.
Merci.
Je vais laisser la place à mon collègue. Je vous lance le diaporama.
Merci. Bien. Ben, je vais essayer de répondre à votre question, sachant qu'il y en a deux. La plus récente concernant finalement la question de la case qui manque, moi, j'ai envie de vous dire qu'il me semble que cette case manquante est partagée, c'est-à-dire qu'il leur manque peut-être une case, mais il nous en manque une certainement à nous sur le plan institutionnel pour pouvoir leur proposer quelque chose d'adapté. Cette question des incasables, justement, cette terminologie qui n'est pas très heureuse, j'en conviens, je dois l'assumer, parce qu'elle vient plutôt du médical, c'est-à-dire que il y a 30 ans, ces incasables étaient des patients qui étaient hospitalisés en psychiatrie et pour lesquels on n'arrivait pas à trouver une structure adéquate parce que, bien qu'ils présentent des troubles psychiatriques, une manifestation majeure du côté de troubles comportementaux ou de troubles sociaux faisait qu'évidemment, les confrères, ou même à l'époque, ne souhaitions pas les garder dans les structures hospitalières. Donc, il fallait les faire sortir avec à ce moment-là deux axes qu'on retrouvera tout à l'heure, hein, c'est-à-dire soit l'axe concernant le registre social, soit l'axe représentant le registre judiciaire, hein, qui permettait là de régler ces questions. Il faut d'ailleurs rappeler que dans le domaine de la psychiatrie adulte, la création des secteurs de psychiatrie ont eu pour but justement d'éviter ce petit jeu très très habituel à l'hôpital concernant le fait de faire sortir certains malades un petit peu difficiles le vendredi ou le samedi, sachant que le début de la semaine suivante le service porte changeait et que le même patient allait aller dans un autre service. Donc le secteur attribuant un espace géodémographique concernant le suivi des patients avait pour but d'éliminer ce type de petit jeu. Ceci étant, pour revenir à la question des enfants, la pédopsychiatrie, heureusement, n'a pas été prise dans les mêmes travers, mais il faut constater que depuis quelque temps, entre des orientations différentes concernant les modalités de soins et également, bien évidemment, la diminution du nombre de places dans les services de pédopsychiatrie, on a également un phénomène de transfert de déplacement de ces populations vers d'autres structures qui sont les structures médico-sociales. Et on l'a vu hier dans un certain nombre de cas qui ont été proposés, combien ces situations peuvent devenir une espèce de jeu de ping-pong dramatique où d'un côté les structures médico-sociales essayent de renvoyer la balle du côté de l'hôpital, l'hôpital étant le roi de la mortie, la balle évidemment revient et ça finit par l'arbitre qui est en général le juge pour enfants, qui va prendre une décision de placement de l'enfant en MEX, en foyer de l'enfance ou en famille d'accueil. Donc ces problématiques d'incasables nous semblent à rattacher à ce qu'on a décrit hier et à nos situations sur le plan institutionnel concernant certains jeunes qui vont présenter un handicap sensoriel avec un autre handicap ou d'autres handicaps associés, et ainsi que la DIRXAMIT et l'étude qu'il a présentée va dans ce sens-là. C'est beaucoup plus évidemment du côté du trouble psychiatrique, voire du handicap psychique, qu'il faut aller chercher un des éléments explicatifs de cette situation. Alors justement, pour conforter cette hypothèse, j'ai trouvé que l'intitulé de ce congrès me plaisait beaucoup, parce que je trouvais qu'il délimitait clairement un certain nombre de questions, et je vous propose de faire un petit exercice à la Derrida, hein, qui est un de nos philosophes français contemporain, qui est un des rares à être reconnu aux États-Unis de façon tout à fait importante, et qui considérait que qu'un texte, qu'un discours, si on le soumettait à une forme de déconstruction, venait délivrer un certain nombre de vérités, d'organisations sous-jacentes qui n'étaient pas perceptibles jusque-là. Donc là, je suis un psy, donc les psys ont aussi des aspects un peu ritualisés. Donc vous savez combien ont d'habitude, c'est toujours la fin qui nous intéresse pour remonter au début. Donc je vais reprendre le dernier point, évidemment, concernant celui d'handicap associé, ce qui m'arrange bien par ailleurs, puisque c'est quand même le point qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, ce handicap associé, je vais essayer de reprendre quelques éléments concernant des aspects historiques qui ont déjà été développés de façon tout à fait précise hier, mais peut-être pour les mettre un petit peu en lien. Concernant la notion justement de la case et du sujet. Il me semble que la réforme des annexes 24 dans les fins des années 80 a eu pour finalité la création des sections spécifiques, des CDA par exemple dans les structures pour enfants sourds. Donc on voit bien que là, la démarche est de créer une case pour accueillir les individus. Et puis, quelques années après, apparaissent les notions de pluri, de poly, de surhandicap, dont on a également parlé hier, hein, très très rapidement avec l'association circonstancielle de ces handicaps pour le plurihandicap, la notion d'une déficience mentale importante, d'un défaut sur le plan de l'autonomie très conséquent pour le polyhandicap, et quant au surhandicap, un handicap, ajouter un handicap premier peut être à l'origine du second handicap. On voit bien là qu'on est dans une démarche différente de la précédente, c'est-à-dire qu'après avoir tenté de créer une case, on essaye d'organiser un ordonnancement qui vient structurer un petit peu la façon de regrouper les sujets qui seront mis dans ces cases. Il est intéressant de constater qu'à peu près à la même époque, la notion du handicap rare émerge, et Mme Vinance l'a tout à fait indiqué clairement hier, me semble-t-il, dans une dynamique assez différente, et le handicap rare reste un électron libre qui tourne un petit peu autour des structures existantes avec d'autres modes de fonctionnement, d'identification des centres ressources ou autres. Et puis apparaît la loi 2005 sur le handicap qui vient, tout en ne modifiant pas les annexes, modifier à mon sens sur le plan conceptuel de façon très conséquente les choses, se référant à ce moment-là à une homogénéisation des handicaps, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la question du pluri, du poly ou du surhandicap. Tout handicap va être la conséquence d'une altération substantielle, durable ou définitive, c'est la loi qui le définit, de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitive ou psychique. Alors, on voit apparaître dans le domaine des déficiences deux nouveaux types de déficiences qui jusque-là n'étaient pas identifiés, à savoir les déficiences cognitives et les déficiences psychiques. C'est plutôt sur cette dernière déficience que je vais insister un petit peu, dans la mesure où cette déficience psychique va aboutir de façon linéaire, puisqu'il y a une déficience, il y a probablement un handicap lié directement à cette déficience, et que c'est la notion du handicap psychique. Handicap psychique qui vient à nouveau sur des zones de transition compliquées entre le médical et le médico-social, puisque la question du diagnostic se pose. Et il est intéressant de repérer que ce nouveau type de handicap apparaît bien antérieurement, hein, en 1987, c'est la loi Chaussy, concernant l'autisme qui va être, par l'Assemblée nationale, considéré comme étant désormais de l'ordre du médico-social et donc de facto un handicap et non plus une maladie mentale. À ce propos, puisque suite à l'autisme, qui sera finalement le premier handicap psychique, qui ne sera pas dénommé comme tel, mais qui ouvre la voie à cette notion de handicap psychique, il est intéressant de constater que le rapport 2011 de l'IGAS sur la question du handicap psychique est un rapport qui est un rapport assez curieux, soulignant finalement le flou de cette notion de handicap psychique, son absence de consensus, et puis des fourchettes en termes de population, assez sidérante, de 30 à 1% de la population. Fourchette de population, ça me fait penser à la communication de ce matin sur les troubles du spectre autistique, qu'on ne retrouve finalement que du côté de l'autisme sur le plan médical, concernant les différentes classifications, on y viendra probablement tout à l'heure. De fait, derrière cette absence de définition, de consensus, le seul point qui est un point organisateur, c'est, comme pour tous les autres handicaps, la notion de la limitation de l'activité, de la participation et l'émergence du projet de vie, dont vous avez parlé hier, monsieur, je trouve tout à fait intéressant, concernant cette notion qui émerge à ce moment-là du projet de vie, qui doit être lui-même finalement catégorisé, défini, puisqu'il sera le support d'un certain nombre d'aides. À la même période, ce que l'on voit, ces classifications médicales elles-mêmes, qui sont évidemment le point en amont du côté du diagnostic, c'est-à-dire pour définir une déficience psychique, il faut bien qu'on ait un diagnostic. Et ce diagnostic, il reste, même si c'est une déficience, du côté du médical. Les classifications médicales se mettent à se situer dans une forme de rapport au sujet qui va abandonner des explications très ambitieuses, mais des explications de type théorique, psychopathologique ou autre. Et on va voir du côté des deux grandes classifications internationales, le DSM, on a parlé ce matin du nouveau DSM-5 qui va sortir, qui s'appuie sur des unités descriptives, comportementales, et qui, de façon tout à fait délibérée, a souhaité ne se référer à aucune conception théorique explicative du trouble. On est dans un processus purement descriptif. De l'autre côté, la classification de l'OMS, c'est-à-dire la CIM, la CIM 10 actuellement, il y a une nouvelle CIM en cours, mais est également une classification particulière dans le sens où elle a pour but de trouver un langage commun entre les médecins et donc d'être simplement une structure de codage. C'est pour ça que les hôpitaux, d'ailleurs, ont retenu, enfin en France en tout cas, la CIM comme élément de catégorisation diagnostique. Alors, ces problèmes de classification ne concernent pas que les médecins. On a vu hier que les bébés, très très tôt, commencent à organiser le monde en termes de classification. Et que probablement, la façon dont ces premières classifications vont se faire vont être déterminantes sur la suite du processus cognitif, mais peut-être aussi psycho-affectif et du rapport au monde de ces bébés. Et il est intéressant de constater que dans le domaine des classifications, cette question se pose de longue date. Déjà, Linné et Buffon avaient été dans une opposition concernant le fait que comment catégoriser le vivant, l'un comme l'autre avait considéré que ce qui était important, c'est de prendre un point descriptif différenciant. Linné s'était fixé sur les caractères sexuels, Buffon peut-être plus français, plus dans une forme de lien à l'affect, lui s'était référé à ce qui reliait les animaux aux humains de façon plus originale et intéressante. Le problème n'étant pas d'ailleurs finalement la validité du point descriptif, mais de l'importance d'un point descriptif discriminant. Et puis depuis le milieu du XXe siècle est apparu un autre type de classification qui va peut-être nous parler plus, nous, dans le cadre de notre travail, c'est-à-dire ce sont les classifications évolutionnistes, c'est-à-dire c'est la cladistique. Et pour vous aider à différencier les deux types de classification, si je vous dis un homme, une truite et un requin, quel est l'intrus? Bon, si vous me répondez l'homme, à ce moment-là, vous êtes dans une dimension de classification classique, c'est que vous êtes référé à la question de l'espèce, des deux poissons. Si par contre vous me dites c'est le requin, vous êtes dans de la cladistique, c'est-à-dire dans une dimension phylogénétique, évolutionniste, puisque nous partageons avec la truite un magnifique squelette. Ce qui n'est pas le cas du requin, qui lui a un squelette cartilagineux, donc qui sur le plan de l'évolution des espèces, s'est différencié depuis bien longtemps. Donc ce qui me paraît intéressant, c'est de voir dans ces classifications des aspects descriptifs, fixes, ou des aspects dynamiques. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être un petit peu inquiétant, cette notion de classification, cette difficulté d'appréhender l'autre dans quelque chose qu'on pourrait justement théoriser de façon certaine. Alors quand on commence à un peu déprimer, c'est toujours bon de regarder un petit peu dans le champ du voisin, pas forcément parce que comme dans la fable, l'herbe est plus verte, mais souvent au contraire parce qu'elle est un peu plus jaune. Donc si on se tourne vers d'autres domaines concernant, et là on revient vers le début de la phrase inaugurale de ce congrès, c'est-à-dire la complexité, que nous disent des gens comme Henri Atlan, qui est un biophysicien de qualité, qui avait intitulé un de ses livres il y a quelques années « Entre le cristal et la fumée ». Atlan, qui travaille beaucoup sur ces notions de théorisation de l'ordre du vivant, considère lui qu'on ne peut pas appréhender le vivant sauf d'un côté à le réduire à l'état de squelette, de cristal, c'est-à-dire qu'on a la forme, la structure, mais elle est morte, soit à considérer qu'il faut se fixer sur la dynamique du vivant, mais auquel cas on est du côté de la volute de fumée dans quelque chose qui n'est absolument pas maîtrisable et contrôlable. Alors, de fait, ça ne concerne peut-être pas que le vivant, puisque si on se tourne du côté des sciences dures et de la physique quantique, c'est ce que nous dit Heisenberg, c'est-à-dire que finalement, dans l'univers du tout petit, une particule, on ne peut pas savoir à la fois sa vitesse et sa position. Il faut qu'on fasse le choix, en tant qu'observateur, de considérer que c'est une particule ou une onde. Et on ne peut pas avoir les deux à la fois. On peut, théoriquement, aller de l'un à l'autre, mais il faut accepter cette incapacité de pouvoir appréhender le tout. Enfin, pour terminer et revenir au handicap, on le voit bien, qu'il s'agisse de science, finalement, qu'il s'agisse de handicap, la question de nos représentations, de nos productions culturelles, sont ce qui nous permettent de nous relier au monde et à l'autre. Et il est important de se tourner vers l'ethnopsychiatrie, par exemple, concernant la notion de la signification du handicap selon les cultures, et peut-être que c'est un aspect que nous ne prenons pas suffisamment en compte dans toutes ces familles migrantes que nous rencontrons, parce qu'il est évident que, selon qu'il s'agit d'une famille d'Afrique de l'Ouest, du Maghreb ou chinoise, le handicap ne va pas avoir du tout la même signification. Je pense d'ailleurs qu'on peut pousser encore cette question du côté du PPH. C'est-à-dire que le PPH lui-même, qui dans le registre situationnel du handicap, pose activement la question de la représentation, est lui-même une représentation. Alors pour éviter les mises en abîme un peu trop inquiétantes, je vous propose que l'on revienne à ce qu'Éric Zamit a présenté, qui est du chiffre. Le chiffrage du réel nous rassure toujours un peu. En particulier, que cette étude peut-elle nous dire? D'une part, il faut prendre en compte le fait qu'elle concerne l'adolescence. Alors évidemment, cette adolescence, c'est à la fois un biais. On sait que dans la population générale, c'est un moment où on va avoir une augmentation des troubles psychiques, des troubles comportementaux, sans forcément qu'il s'agisse d'une pathologie qui soit une pathologie avérée et définitive. Mais c'est là aussi qu'est tout le paradigme de l'adolescence, et peut-être que l'adolescence peut nous servir aussi dans la façon dont nous pouvons nous situer par rapport à ces sujets qui nous posent problème. C'est-à-dire qu'un adolescent, il faut l'aider à se débrouiller entre la question de la continuité et de la rupture. Il faut à la fois, quand lui-même se met dans une structure cristalline, éviter d'être le marteau qui va l'exploser. Et c'est la réponse à votre question tout à l'heure. Sont-ils cassables? Je pense qu'hélas, oui, ils ne sont pas incassables. Mais à d'autres moments, il est évident qu'il va falloir, quand il est parti dans des volutes, il va falloir le contenir, le cadrer et le limiter. Donc cet aspect paradigmatique me paraît intéressant et à garder en tête pour peut-être la diapositive suivante. L'autre point, c'est que cette étude traite évidemment d'une demande et donc d'une insatisfaction. Ce que l'on y voit, c'est que l'origine de cette demande correspond à une inadéquation, c'est là où on trouve l'aspect situationnel évidemment, entre les caractéristiques de la personne, de ses adolescents, et l'environnement, en particulier l'environnement qu'on leur propose, puisque la question qui est posée, c'est celle de nos propositions. Et il y a un aspect que j'ai trouvé moi un petit peu surprenant, c'est l'association dans la demande ou dans les manques, ça dépend comment on le présente, du soin et du scolaire. Hein, puisque Rizamit vous l'a présenté tout à l'heure, il y a deux aspects qui émergent concernant la demande à laquelle nous ne répondons pas. C'est le soin, mais là encore, curieusement, pas le soin psychiatrique institutionnel. Vous avez vu qu'il y a un écart de 2%, c'est rien, entre ce qui existe et ce qui est demandé. Par contre, c'est la question du soin individuel, et on sent derrière, évidemment, la question de la demande psychothérapeutique individuelle. L'autre aspect, c'est le scolaire. Et curieusement, ces jeunes, leurs familles, les institutions, demandent du scolaire spécialisé, alors que c'est un CEFS. Donc, ils sont déjà en situation scolaire ordinaire, et donc en inclusion. Donc je pense que ces aspects qui émergent, même si évidemment ils n'ont pas une grande validité scientifique vu le peu de sujets concernés, doivent quand même nous questionner sur des aspects qui peut-être en termes de représentation nous sécurisent, mais peut-être pas forcément ni ces jeunes ni leurs familles. Enfin, le troisième point, c'est évidemment la demande d'une articulation de ce trépied habituel de l'éducation spécialisée finalement, à quoi correspondent le thérapeutique, l'éducatif et le pédagogique. Alors c'est là où je me suis demandé si finalement c'était pas le retour d'Itard, cette histoire. Hein, Itard, vous vous souvenez, c'était ce médecin de l'Institut des Sourds de Paris à qui on a confié Victor, qui a été un magnifique incassable, qui à défaut d'être incassable a cassé beaucoup de choses, au moins chez Itard, puisqu'il l'avait pris chez lui. Et Itard avait hérité de cette prise en charge de Victor parce que justement, l'abbé Sicard, parce que les scientifiques de l'époque considéraient que l'expérience qu'il avait dans la démutisation d'un enfant qui était probablement un enfant autiste ou psychotique, qui ne parlait pas, que l'expérience qu'il avait sur le plan de l'éducation spécialisée, que l'Institut des Sourds de Paris avait développé, hein, rappelez-vous ce qui a été dit hier concernant ces deux axes, entre l'axe de Pinel concernant la psychiatrie classique, et puis une psychiatrie, une pédopsychiatrie qui s'est développée grâce aux institutions spécialisées pour déficience sensorielle. Hein. La pédopsychiatrie a ces deux mamelles-là. Donc, ce retour d'Itard, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est un fantasme ? C'est-à-dire, est-ce que c'est la réapparition finalement d'un espèce de tout total qu'on va appeler à l'adolescence, parce qu'effectivement la séparation est problématique, parce que les contenants fonctionnent de moins en moins ? Est-ce que c'est un fantôme ? Est-ce que c'est les regrets que nous avons tous d'institutions, qui étaient des institutions globales, sécurisantes, ou est-ce que dans le fond c'est une réalité, c'est-à-dire que peut-être que ces jeunes ont besoin de prises en charge qui sont des prises en charge globales. Et il est évident qu'on ne peut que se questionner sur le fait que la psychiatrie infantile réouvre de plus en plus de structures pour adolescents, les accueillant à temps complet, que ces structures sont saturées, que les internats scolaires sur ces tranches d'âge-là sont de plus en plus saturés, comme si les parents étaient dans une demande de structures, d'institutions, qui en plus d'être contenantes, seraient probablement instituantes, ce qui est un des problèmes de l'adolescence, et d'autant plus qu'on a un handicap sensoriel associé. Alors, pour terminer, finalement, qu'est-ce qu'on peut échafauder comme représentation en termes d'accompagnement ? D'une part, quelque chose qui est compliqué autour d'un paradoxe actuel entre des soins qui sont des soins adaptatifs, on l'a vu, et qui découlent logiquement des nouvelles classifications, des nouvelles représentations médicales, où ce qu'on va identifier, c'est un symptôme, pas une structure psychique. Et donc la réponse médicale va être une réponse symptomatique, c'est ce qui s'est passé dans les cas qui ont été décrits hier. La réponse va être pharmacologique, médicamenteuse, avec le fait qu'on a beau faire beaucoup de recherches dans ce domaine, malheureusement, il faut reconnaître que notre efficacité pharmacologique est limitée, que l'on soit du côté des neuroleptiques atypiques ou des amphétamines-like. Le paradoxe tient au fait que d'un côté, le soin se réfère à l'adaptation et que par ailleurs, ces jeunes sont en quête d'une construction subjective. Et ça, c'est ce qui nous est adressé, parce que l'institution devient le lieu où ces symptômes vont pouvoir se partager, pris dans une relation, peut-être dans un quotidien, qui va amener justement à ce que l'on connaisse le jeune au-delà des symptômes superficiels. J'étais très sensible hier à cette description de cas où le collègue qui voyait le gamin, lui, en consultation, effectivement, peut-être même une heure maximale, ne pouvait évidemment pas accéder à une autre problématique psychique de cet enfant qui en témoignait auprès de ses éducateurs au quotidien. Le deuxième point compliqué, c'est que le handicap pose la question évidente de l'identité. Et cette question de l'identité, là encore, renvoie aux identifications. Et on sait combien à l'adolescence, les identifications sont complexes concernant les parents. Et elles le sont d'autant plus qu'on va avoir un facteur parasitant ces identifications. La preuve, c'est que vous savez comme moi que des enfants entendant de parents sourds, donc ne présentant pas eux-mêmes de déficience, vont présenter un taux de morbidité psychique très proche des enfants sourds d'enfants entendants. Donc cette question de l'identité, là encore, ne fonctionne pas toujours aussi facilement que ça, de façon naturelle, quand on a un processus qui vient altérer cette identification. L'autre point, c'est le rapport de l'individu et de la société. Et là, il faut être honnête, le bien d'un individu n'est pas forcément le bien de la société, et inversement. Et je pense que là, nous avons aussi à nous questionner sur tout ce travail concernant ce qui fait que, comme dans un organisme, une cellule va parfois nécessiter d'être sacrifiée pour que le reste de l'organisme, lui, continue à tourner. Bon. Nous sommes placés à cette articulation complexe entre l'individu, le sujet et la société. Que fait-on quand un jeune considère que finalement, avec son AAH, ça va très bien et qu'il n'a pas envie ni besoin de travailler ? Quelle est notre réponse ? Et on est au cœur de ces questions, me semble-t-il. Rapidement, on a vu hier la classification nationale des handicaps, du fonctionnement, la CIF, qui découle de la classification internationale du handicap qu'avait élaborée Philippe Wood, dans laquelle, vous vous souvenez peut-être, il décrit le sujet comme ayant différents plans d'expérience de vie. Hein, et que ces différents plans d'expérience de vie, que ce soit la maladie, que ce soit la déficience, que ce soit l'incapacité ou le handicap, sont très directement reliés. C'est-à-dire que ce lien qui est entre les différents niveaux, chez certains enfants, chez certains sujets, le sujet lui-même ne peut pas les mettre en interaction. Et il est probable que là, si on veut qu'on ait affaire à une construction qui ne soit pas en mosaïque ou en feuilletage, il faut probablement l'accompagner sur tous les plans de ces différents niveaux de fonctionnement. Le quatrième point, c'est la notion des limites du concept de réseau. Alors, On a eu tous beaucoup d'espoir, évidemment, sur ces réseaux, et on en a encore. Mais je crois que ces réseaux, et pas simplement sur le plan psychique, dans le travail que je fais avec des pédiatres à partir du CHU de Bordeaux, certaines pathologies, on a un réseau, par exemple, qui est un réseau obésité, de lutte contre l'obésité chez l'enfant. Et on voit bien que quand on a affaire à des situations qui sont des situations complexes, multifactorielles, ces réseaux, même bien menés, même bien coordonnés, n'arrivent pas à traiter l'intégralité de la question du sujet. Parce que je pense qu'à un moment donné, la question, surtout sur des pathologies comme celle-là, pose la question des limites de l'individu, de sa contenance, de sa relation à l'autre, qui doit s'inscrire dans une forme de continuité. Vous parliez hier d'attachement insécure. Je pense que la plupart de ces enfants ont vécu des aspects comme cela. Et cette notion pour eux de discontinuité, ils ne peuvent que la répéter. Ils ne peuvent que la projeter dans le monde extérieur et l'agir dans le monde extérieur. Et on sait très bien que si on n'a pas quelqu'un qui, à un moment donné, va pouvoir assurer une continuité, au-delà de ce souhait du chaos de l'enfant, malheureusement, les choses ne vont pas bouger. Et ça, ça nécessite probablement quelque chose qui est une réponse qui n'est pas une réponse ponctuelle. Alors, c'est peut-être là qu'on a un élément de réponse. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, l'institution reste probablement un des éléments de réponse. La question, c'est comment peut-on, par rapport à l'institution, faire en sorte qu'elle soit suffisamment malléable pour épouser les contours du sujet et ne pas basculer dans ce qui a été reproché aux institutions à juste titre, c'est-à-dire leur rigidité, leur forme de dimension performative concernant les sujets qui leur étaient confiés. Je pense qu'on peut peut-être revenir à une notion qui avait été développée par Deleuze et Guattari, qui s'est beaucoup occupé de schizophrène à une époque. C'est la notion de réterritorialisation, qui est dure à dire, encore plus dure à appliquer. C'est-à-dire que ces sujets sont un peu perdus, sont sans territoire, sont flottants, sont à trous. Enfin, on peut retrouver tous les qualificatifs concernant ces enfants qui vont nous poser problème sur un plan psychique et de soins. Et probablement, ils nécessitent d'être réinscrits comme l'enfant petit va être réinscrit dans le holding maternel, dans la façon dont la mère tient l'enfant dans les bras. Ils ont besoin probablement d'être réinscrits dans un territoire, mais un territoire qui sera extensible et extensible à leur mesure. Et je pense que c'est là qu'on a peut-être une voie d'avancée, mais c'est ce que disait Examit tout à l'heure, au prix d'un travail conséquent d'élaboration, de reprise, qui sont devenus aujourd'hui bien rares dans nos institutions par manque de moyens. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais remercier aussi l'équipe provençale qui a accepté d'intervertir sa place avec nous. Merci de votre attention. Bien.
Bien, on vous remercie pour la qualité de votre intervention à tous les deux. Alors, on va passer bien sûr au débat, mais je voudrais peut-être l'introduire tout en restant sur le champ de l'épistémologie. Ce qui me gêne, moi, souvent dans ces classifications, c'est qu'on va mettre de côté ce qui fait, me semble-t-il, la richesse de l'humain, c'est sa variabilité. Alors, variabilité, moi, je suis psychologue différentialiste dit-on dans nos écrits, fait l'éloge de cette variabilité. Et ce qui me gêne, et en particulier dans le handicap rare dont on parle depuis ce matin, c'est qu'on va chercher la case, la bonne case. Or, elle n'existe pas. Ils sont incassables, incasables, etc. Et ça, au lieu de dire on a s'épuisé à trouver cette case, pourquoi on ne dirait pas « Eh oui, reconnaissons, éloge de la variabilité ». C'est ça qui fait la richesse humaine et qui nous positionne, nous, dans une interrogation de notre propre normalité. Alors voilà, je me suis permis peut-être
Tout à fait d'accord concernant cette importance de la variabilité, importance de la variabilité de l'individu par rapport aux autres, mais aussi importance de la variabilité de l'individu dans son rapport à lui-même.
Bien sûr.
Et là encore, pour tolérer des écarts, et on l'a vu hier, c'était très net, pour tolérer des écarts, il faut pouvoir être dans une forme, là encore, de case malléable, extensible, en fonction de chacun de ces sujets. Et c'est là qu'est le problème, parce que chef de service, par exemple, est confronté à des impératifs concernant ce qu'on a vu hier en termes d'encadrement. Ça nécessite une élaboration extrêmement importante quant au mouvement psychique généré par ces enfants. On l'a vu hier, qui parce qu'ils sont eux-mêmes plongés dans un rapport chaotique à l'environnement, répètent ce chaos dans le monde externe et projettent les mécanismes psychiques à l'intérieur des autres. Donc les processus qui sont des processus qui permettent normalement une détoxification nécessitent que celui qui reçoit tous ces aspects destructeurs ait lui-même un arrière-fond qui le tienne, qui le garantisse. Et c'est toute la question des structures gigognes de nos institutions qui sont très coûteuses, mais qui sont, je pense, des sécurités fondamentales pour ce type d'enfant.
Tout à fait. Vous avez sûrement des questions, donc j'interpelle la salle par rapport à cette présentation, ou si vous-même, vous avez des remarques par rapport à ça. Oui, madame. Vous vous présentez, peut-être ?
Je travaille à l'Institut Arc-en-Ciel qui accueille des enfants déficients visuels avec des troubles du comportement de ma place d'éducatrice. Ce qui me touche, parce que c'est mon quotidien aussi, c'est de théoriser sous la forme de cases. Moi, ce que j'entends, c'est pas tant une case pour ces enfants-là, parce que nous, on en a vraiment au quotidien, c'est cette souffrance de ce qui dégage, et je dirais quand même nos limites éducatives. Voilà, je veux juste dire ça. C'est surtout la souffrance de ces enfants. C'est pas tant de les mettre dans une case ou dans une autre, parce qu'on a, moi je pense, chacun sa case. Maintenant, ces enfants-là, c'est comment on les porte et comment on les aide à moins souffrir et à se trouver une place, tout simplement. Voilà.
Bien sûr, bien sûr. Mais c'est là où, dans ce qui était présenté hier, concernant finalement le développement précoce de l'enfant. Moi, je pense qu'il y a des modèles là qui sont des modèles qui sont valides, même avec des adolescents ou des jeunes adultes, concernant tous ces aspects projetés sur la mère, tous ces aspects d'agression de la mère, tous ces aspects qui doivent être à un moment donné garantis par la mère. Mais cette mère, elle va pouvoir tenir si elle-même, elle est en appui sur différentes choses, soit quelque chose d'un modèle maternel qu'elle aura intériorisé, du lien à sa mère, de sa propre enfance, de choses comme ça, soit d'un appui sur une figure paternelle, qu'elle soit présente dans la réalité ou symbolique. Et je pense que le problème, c'est, à un moment donné, une forme de contamination dans la dualité qui, effectivement, exclut le tiers. Ça a été dit hier plein de fois, et je pense que cette dimension-là du tiers est probablement une garantie pour permettre à ces jeunes de moins souffrir, et peut-être, tout en gardant une forme de spécificité, une variabilité individuelle, qui est aussi ce qui nous définit. C'est-à-dire que je crois que, bon, c'est ce que Ricoeur explique bien, notre identité est une identité narrative et que nous nous racontons de façon différente au fur et à mesure de notre vie. Bon. Et je pense qu'il faut reconnaître aussi cette possibilité à ces jeunes. Mais pour ça, il faut qu'ils aient des interlocuteurs qui puissent eux-mêmes absorber et se sentir en appui quand les choses sont trop envahissantes.
Sur cette dimension-là, sur l'appui nécessaire dans ce que vous évoquiez, sur lequel on est confronté au quotidien dans nos métiers. Y a pas de enfin, on voit bien depuis hier qu'il n'y a pas de réponse toute faite et que c'est à nous de les créer et que ce n'est pas parce qu'on a trouvé une réponse adaptée pour un jeune que hop, celui qui va arriver demain, il va rentrer dans cette nouvelle case qu'on a créée. Et ce travail interdisciplinaire, il peut s'effectuer qu'au bénéfice de l'enfant. Il est incontournable qu'il se fasse. Et c'est toute la difficulté de nos métiers, parce que ça ne va pas de soi, a priori. Mais enfin, à mon sens, ça peut passer que par là. Hein. Bien sûr que souvent on entend la souffrance des éducateurs. Vous n'êtes pas les seuls à porter la souffrance de ces enfants ou leurs difficultés, quoi. Et c'est vrai que ça peut passer que par un travail éclairé de différents endroits.
Je voulais peut-être vous poser une question, monsieur Zamit, par rapport à votre pratique et les interrogations que j'ai, moi, dans le soin psychique en institution. La question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que ce soin, enfin, dans l'apparition de ces troubles de ces jeunes, doit se faire en intramuros ou en extramuros? Alors, je vous dis ça parce que souvent nous sommes confrontés dans nos institutions à solliciter les CMPP, les CATTP, les hôpitaux de jour, qui nous disent, alors d'abord qu'ils ont des listes d'attente impressionnantes, d'abord, et deux, que, bah, oui, mais il est déficient visuel, alors on ne connaît pas, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ça, c'est un point important parce que, si vous voulez, on va nous dire qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Est-ce que c'est à nous de prendre en charge ce dispositif de soins? Ou est-ce qu'on va chercher des partenariats, des compétences ailleurs, etc.
Alors, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que l'enquête portée sur les CEFS, chef d'un service adolescent de la CDAA, donc la réponse est un peu différente. Oui. Le CEFS, son plateau technique, voilà, va forcément leur amener à chercher des réponses à l'extérieur. Sur la CDAA, la tentation est souvent grande pour des membres de l'équipe d'aller chercher à l'extérieur des réponses qu'on n'arrive pas à trouver, nous. Et donc, c'est souvent proposé, mais allons chercher ailleurs quelqu'un qui saurait faire avec cet enfant, où là, nous, on n'y arrive pas, on n'a pas les compétences. Voilà. Alors, sur la déficience sensorielle que j'ai découvert il y a 7 ans, et sur Bordeaux, on est vite en but au fait que ben, des réponses à l'extérieur, il n'y en a pas de toute façon. Donc, c'est nous qui devons faire. L'équipe a du mal souvent à l'accepter. C'est nous qui devons faire, mais au-delà du fait qu'il n'y a pas de réponse forcément à l'extérieur adaptée pour des jeunes sourds signants, qui ne peuvent pas intégrer des groupes de paroles oralisants, par exemple. Ou, voilà. Au-delà de cet aspect-là, il y a, je pense, vraiment, pour l'individu, pour le jeune, ça c'est peut-être M. De Bruges qui le dira, un intérêt à ce que ça se passe à l'intérieur de l'institution, pour beaucoup de ces jeunes. Voilà, en fin de parcours, on organise, nous, sur le fin de parcours au niveau de l'établissement, des relais avec des partenaires extérieurs, mais pour la vie future du jeune. Mais dans le temps où il est là, vraiment, c'est quelque chose, je pense.
Je voulais juste rajouter quelque chose concernant la présentation de ce matin sur la question des troubles autistiques chez des enfants déficients visuels. Et la question, justement, tout à fait intéressante, concernant le handicap visuel, ce qui était rapporté là recoupe quand même des expériences cliniques que quasiment tous les psychiatres ont, concernant le fait que des tableaux autistiques qui s'amendent de façon significative chez des enfants présentant des déficiences sensorielles, on n'a pas l'équivalent chez des enfants ne présentant pas d'atteinte sensorielle. Des enfants qui peuvent aussi bien évoluer, des enfants normaux entendants, n'ayant pas de problème de vue, mais on n'a pas ces tableaux-là. Et moi, je pense qu'il y a quand même une spécificité. Spécificité qui vaut dans la question des diagnostics, des observations, mais aussi probablement dans un type de travail qui ne différencierait pas ces plans-là. Je ne crois pas qu'on puisse, en tout cas chez l'enfant jeune, mais je ne crois pas qu'on puisse différencier ces plans-là en termes d'efficacité, me semble-t-il.
Oui, bonjour. Patrice Placoli, je suis la trésorière de la MEDAV, l'association martiniquaise pour les déficients auditifs et visuels de Martinique. Je ne suis pas technicienne, hein, je ne suis que la trésorière de l'association, donc parmi tout ce milieu d'experts, bon, je pose quand même une question. Vous avez entrouvert une brèche justement en parlant de cultures différentes. Effectivement, bon, je suis martiniquaise et je sais la différence de culture, et je sais que la société française est de plus en plus multiculturelle. Est-ce que vous êtes armée justement pour dans ce sens-là?
Alors, nous avons utilisé une association qui s'appelle MANA, hein, à Bordeaux, qui fonctionne aussi à Paris, hein, avec Rosemarie Moreau, hein, concernant un travail d'ethnopsychiatrie. Je pense que par rapport à ça, c'est intéressant, ça rejoint la question précédente. Je pense que sur le plan peut-être de l'ouverture et d'aller chercher à l'extérieur des ressources, entre guillemets, c'est probablement sous ces angles culturels qu'il faut effectivement que les institutions s'ouvrent, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas accueillir, me semble-t-il, de la même façon une famille selon la culture de référence, concernant la place des uns ou des autres. Et ça, ce sont des outils qui nous manquent en termes de connaissances, mais il y a probablement aussi des modes de réponse qui doivent passer par des registres probablement communautaires pour certaines situations. Et je pense que aller chercher à l'extérieur certains types d'interventions me paraît peut-être pas, moi, absolument indispensable. Par contre, concernant ce registre-là, oui, très certainement. Très certainement.
Oui, donc par rapport à ce que vous disiez, je me présente Christelle, éducatrice spécialisée de la même association en Martinique. C'est vrai que par rapport aux incasables dont on parlait, est-ce que il ne faudrait pas peut-être une souplesse au niveau de la MDPH, vraiment aussi de ce côté, pour permettre une double, triple notification, parce que c'est vrai qu'il faut revoir le plateau technique et spécifier les pédopsychiatres, etc. Mais en même temps, un jeune peut, dans une semaine, ben, deux jours, s'il est déficient visuel à l'Institut pour déficient visuel, enfin, on peut réaménager une semaine pour un jeune qui souffre de troubles psychiatriques, de déficience visuelle, etc., sans que, voilà, sans... Et peut-être voir au niveau de la tête.
Non, juste peut-être dire que ce sont des choses qui se pratiquent, hein, des doubles notifications. Et souvent, enfin, je ne sais pas si c'est la MDPH qu'il faut interroger ou les financements, qui sont souvent différents entre les structures et qui sont un réel frein à des partenariats de ce type-là. Mais ça se fait, nous, sur une situation, on évoquait hier la faisabilité d'un projet individuel commun à deux structures. Nous, on l'a fait, et on peut le faire. Voilà. Et ça fonctionne bien.
Il y a pas mal d'enfants qui sont sur plusieurs structures, mais effectivement, les maisons départementales sont départementales. Donc, mais ça peut se faire. Ça peut se faire quand même. Ça peut se faire. Et c'est intéressant concernant la question, j'ai parlé des identifications tout à l'heure, concernant les identifications latérales ou transversales entre enfants. Parce que ça rejoint peut-être votre question. C'est-à-dire, je pense que de la même façon qu'il y a des cultures familiales, qu'il y a des cultures plus larges, je pense qu'il y a aussi des cultures enfantines qui ne sont pas les mêmes. On l'a vu concernant, par exemple, ces troubles vestibulaires. Enfin bon, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas à considérer uniquement du côté de la déficience et du manque, mais probablement d'une forme de construction d'un rapport au monde que ces enfants peuvent partager entre eux, probablement, dans un registre qui a certainement un équivalent de structuration culturelle de l'individu, enfin, je pense.
Bien, est-ce que double prise en charge, triple, quadruple, quintuple, ouais. Non, bah, dans la logique du handicap, multi-handicap, est-ce que vous-même, vous avez peut-être des exemples de double prise en charge, sûrement, ouais, oui, madame.
Bonjour, je suis psychologue au centre Charlotte Bouin à Angers et effectivement, je voudrais rebondir sur l'histoire de l'intramuros et extramuros. Moi, j'ai travaillé plutôt bien avec le secteur de pédopsie. Alors, bah, peut-être j'ai eu de la chance, peut-être je suis bien tombée avec la pédopsie qui a suivi un de mes petits patients. Et effectivement, on a essayé quelque chose en intramuros. On a mis en place des ateliers pour lui, on a mis en place une psychothérapie individuelle, un travail familial. Mais le cadre de nos institutions, en tous les cas, celle d'Angers, ne suffisait pas. Il fallait vraiment aller chercher un contenant plus important en termes hospitaliers. Donc on a dû passer par le CMP, les urgences psychiatriques, afin de calmer des troubles du comportement et un traitement. Voilà. Sachant que nous n'avons pas de psychiatre en intramuros en plus. Donc c'est vrai que ça change un peu aussi la donne. Donc voilà, c'est...
Ce qu'on voit quand même de plus en plus se développer, ce sont des services de psychiatrie qui se spécialisent dans l'abord de certains handicaps sensoriels quand même, hein, de plus en plus. Ce qui est aussi une autre forme de réponse probablement, hein, concernant une adaptation.
Vous avez raison d'insister sur la spécificité de chaque jeune de nos institutions.
Rapprochez-vous bien du micro, pardon. Merci.
La spécificité de chaque jeune de nos institutions pour lesquelles il n'y a pas une réponse. Enfin, on dit ça depuis... Et des réponses externalisées peuvent parfois être la bonne réponse. Voilà.
Une autre question, enfin, je ne sais pas s'il faut vous présenter.
Si, vous présentez, oui, messieurs. Jean-Marie Jacot, je dirige une structure sur le Gard. Je voudrais d'abord vous remercier de vos interventions conjointes, à la fois cette approche, on va dire, statistique d'une part, et après le regard un peu analytique que vous avez posé. J'ai peut-être été peu attentif, mais j'aimerais savoir comment vous êtes arrivé à ces statistiques. Est-ce que c'est par ces observations des publics, interrogations des patients eux-mêmes, comment êtes-vous arrivé à ces données?
Non, ce sont des données qui sont issues des équipes d'accompagnement des jeunes. Hein, pas les données ne sont pas issues des jeunes eux-mêmes ou de leur famille, effectivement. Voilà. Alors, c'est venu sur un partenariat entre les établissements sur Bordeaux qui butait sur cette frange de la population qu'on accueille et pour laquelle on avait besoin quand même de quantifier à un moment, voilà, pour valider la mise en place éventuellement de nouveaux dispositifs qu'on expérimente actuellement. Mais il y a un moment où, on entend dans les équipes, c'est jeune, c'est difficile, on en a de plus en plus. Ça, je l'entends depuis que je travaille dans le secteur, c'est toujours nouveau, toujours plus. Et il y a un moment, il y a quand même besoin de mettre quelque chose d'une quantification pour valider, voilà, la mise en place de nouveaux dispositifs. C'est ce sur quoi on travaille actuellement au niveau du CESDA et avec l'INJS et le CAL.
Je trouve que le souci de vouloir objectiver est tout à fait reconnaissable. Il faut le faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas un biais, là, au bout du compte, de demander aux professionnels eux-mêmes, il faut le faire, hein, quels sont les besoins pour ces publics-là? Est-ce que quelque part, il serait pas à un moment donné nécessaire de le croiser aussi avec comment le public ou comment la famille du public ressent le besoin? Vous voyez, pour pas être dans un processus d'auto-justification, quoi. En fait, on vous démontre qu'il en faut le plus, la preuve.
Oui, c'est un processus en cours, hein, donc c'est une étape dans la démarche, vous avez raison sur ce que vous évoquez, et cette dimension-là va être prise en compte incontournablement, enfin, pas possible aujourd'hui de penser autrement, bien sûr.
Bien, une dernière question, peut-être, remarque ou commentaire.
Présentez-vous.
Monsieur David, directeur d'établissement. C'est pas une remarque, simplement vous dire que bon, moi j'arrive en fin de carrière et que j'ai eu peur pendant assez longtemps parce que j'entendais la mort des établissements, la mort des internats. Je m'aperçois qu'aujourd'hui le balancier a changé. Je vous entends dire, docteur De Bruges et Eric Zamit, les besoins, hein, qu'on a en établissement de trouver des solutions adaptées et individuelles, hein, par rapport à ces jeunes-là. Mon inquiétude uniquement, hein, vient du fait qu'il me semble que les établissements recevant ce public se sont renforcés en premier en éducatif, parce que c'est le premier accompagnement quotidien. Qu'aujourd'hui, dans nos établissements, la part du rééducatif, voire du soin en général, a été un peu laissée de côté pendant quelques temps, qu'il est difficile aujourd'hui par rapport à nos financeurs d'obtenir des postes. Et donc, quand j'entends dire que c'est à l'établissement de trouver des solutions et que finalement, à l'extérieur, on n'en trouve pas, et quand bien même on en trouverait... on n'a pas les moyens d'aller également sur l'extérieur. Je suis un peu inquiet, mais je fais confiance à tous les établissements pour trouver à l'interne, hein, des solutions adaptées. Mais ça va un peu en contre-courant, parce que quand même, depuis quelques années, on entend dire, bon, l'établissement, c'est fini, il faut à tout prix, hein, s'ouvrir sur l'extérieur, il faut à tout prix, hein, travailler avec des partenaires. Bon, nous, sur Bordeaux, mince, je me suis dévoilé, sur Bordeaux, c'est vrai que, bon... Docteur De Bruges l'a bien dit, et vous aussi, on a le CAMS, on a l'hôpital, donc on a une situation particulière. Mais je pense qu'il ne faut quand même pas faire l'impasse de l'extérieur, même si je suis ravi que les établissements reprennent leur place première, à condition de ne pas rentrer dans l'enfermement.
Bien sûr. Moi, je pense qu'il est important de voir l'évolution de l'hospitalier aussi. C'est-à-dire qu'on a connu le même mouvement quand même sur le plan hospitalier. Une période où on a, il y a une période où il n'y avait quasiment plus nulle part d'hospitalisation à temps complet en pédopsychiatrie. Et il a fallu réouvrir des structures qui ont d'abord été des structures d'urgence et qui désormais sont des structures de prise en charge avec des modalités de prise en charge sur du long terme, en internat, en hospitalisation de jour. Mais on est revenu quand même sous le poids de la réalité face à une augmentation quand même de pathologies de plus en plus conséquentes ou tout au moins nécessitant des espaces contenants, des espaces durables, parce que d'autres espoirs qu'on avait pu avoir sur d'autres modes de réponse n'ont pas été aussi satisfaisants que ça. Donc je pense qu'on peut peut-être penser que cette antériorité de ce mouvement du côté de la pédopsychiatrie
aboutissent à quelque chose d'identique du côté du médico-social, d'autant plus que la pédopsychiatrie se dégage quand même de plus en plus d'un tas de situations qui sont aujourd'hui dans le médico-social. Dans les ITEP, aujourd'hui, grosse majorité des enfants qui y sont des enfants qui auraient été il y a 10 ans en hôpital de jour, c'est une évidence, et qui le sont parce que les hôpitaux de jour prennent un temps très partiel. Donc on a un effet comme ça de déplacement. Donc ce serait surprenant qu'on n'ait pas quelque chose qui suive le même mouvement, enfin, il me semble.
Oui, puis la question de l'intra et de l'extérieur de l'établissement n'implique pas une fermeture de l'établissement. Hein. Enfin, c'est pas le contraire d'une ouverture et de partenariat. Hein. Au contraire, sur ces situations complexes, tout seul, on ne pourra pas faire. Mais la nécessité ressentie, vécue et réelle pour les équipes de devoir créer... elle est malgré tout là et elle est là dans ces institutions-là.
J'ai juste une question. Alors, je me représente, je suis Christine Mautrelab, donc je suis psychologue clinicienne au CESDA et donc on a présenté tous les trois un cas. Et en fait, moi je suis complètement d'accord avec ce que vous présentez hein, sur on ne peut pas faire tout seul. Et en même temps, on se sent seul. On se sent très seul dans le multipartenariat et il me semble. Enfin, pour nous, ce qu'il a manqué, ce serait un chef d'orchestre. Et alors, j'avais envie de vous demander ce que vous en pensez. Qui coordonne tout ça? Parce qu'il faut du multipartenariat fragmenté pour mieux rassembler ensuite, mais qui rassemble dans une continuité, malgré les ruptures? Voilà, j'aimerais votre avis un peu là-dessus, parce que nous, enfin moi, il m'a semblé que c'est ce qui nous manquait, quelqu'un qui vienne un peu prendre du recul.
Ça dépend comment on entend la question du recul. Est-ce que c'est une élaboration par rapport à ce qui se vit au niveau de l'équipe? Je pense que des problèmes de fond, quand même, c'est la question d'un travail concernant une régulation, une supervision concernant tous ces mouvements psychiques. Ça, c'est un point. L'autre point, est-ce qu'il est nécessaire que, au-delà de la dimension symbolique, il y ait dans la réalité quelqu'un qui soit en position de coordinateur, de chef? Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Dans notre expérience concernant une structure thérapeutique sur laquelle j'interviens, on n'a pas de coordinateur et les choses se traitent de façon plutôt souple, justement, en fonction un peu des situations. Mais parce qu'il y a probablement en amont un travail élaboratif qui fait qu'il n'est peut-être pas nécessaire de fixer de façon concrète et matérielle les choses.
Juste peut-être... Je ne sais pas, la situation était particulièrement complexe. En tout cas, ce que j'évoquais tout à l'heure sur la concrétisation, la mise en œuvre d'un projet individuel commun, c'est peut-être ça qui vient faire coordination entre des équipes, enfin, me semble.
Bien, ben, il nous reste à remercier encore nos deux conférenciers, hein, la qualité. Hein. Vous remercie aussi et puis vous souhaitez un bon déjeuner. On se retrouve à 14h pour continuer nos échanges. Merci.
Non, oui, il est très gentil.